Ben écoutez, je vous propose d'ouvrir la séance. On va procéder maintenant à l'appel nominal des conseillers. Abena Laurence, absente. Enzi Jean, absent. Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile,
présent.
Barra Martine,
présent.
Barouin Dolores.
Elle m'a donné pouvoir.
D'accord. Biez Michel.
Présent.
Baumler Laurent.
Présent.
Bouclier Johan.
Donné pouvoir.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présente.
Kérol Evelyne.
Présente.
Clos Marie.
Présente.
Coulet Dominique. Absente. Floury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie. Absente. Pouvoir à Laurent Baumler. Grosbon Lisiane.
Présent.
L'ami Christophe. Absent. Le Mercier Jean-Claude. Absent. Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe.
Absent.
Raguido Cécile.
Absente.
Ferrugia Raoui.
Présente.
Sauvage Patrick.
Présent.
Stéphane Patrick.
Présent.
Urbano Patrick. Absent.
Ok.
Donc 16 présents, le quorum est donc atteint, la séance sera valide. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance ou qui se propose? Evelyne Kérol, qui est contre? Qui s'abstient? Evelyne Kérol, secrétaire de séance. Donc il y a eu 3 pouvoirs reçus. Barouin Dolores à Lisiane Grosbon, Boucli Johan à René Brouillard et Stéphanie Fourdrin à Laurent Baumler. L'ordre du jour de cette séance. Donc après les décisions de droit de préemption urbain, plan local d'urbanisme débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Groupement de commandes SE60, achat de gaz. Schéma d'aménagement et de gestion des eaux SAGE du bassin automne. Service annexe eau potable, transfert de l'actif. Service de restauration scolaire, projet d'accueil individualisé, PAI et tarifs. Désignation d'un représentant au conseil d'administration du collège d'Aramont. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets exercice 2013 de la CCBA. Projet du contrat territorial d'objectif Pays Compiègne Noir Région. Rapport d'activité 2013 de la DTO. Compte rendu de l'activité de la concession 2013 de GRDF. Compte rendu des organismes extérieurs. Questions diverses, il n'y a pas eu de questions diverses. Donc je vous propose de commencer par le débat sur... Enfin, avant le débat, faisons les choses dans l'ordre. L'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal du 30 octobre 2014... Y a-t-il des remarques ou des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Pour les droits de préemption urbain, depuis le dernier conseil municipal, il y a eu 5 demandes. Nous n'avons fait aucune préemption. Une demande de Monsieur et Madame Lézo Hervé, 4 bis rue de la Mabonnerie. Une demande de Monsieur Da Silva Fernando, 3 route de Saint-Sauveur. Une demande de Monsieur Da Silva Kevin Jeannot Pauline, route de Saint-Sauveur. Une demande des consorts Rivolta, 27 rue de la Pêcherie. Et une demande de Monsieur Noé, 6 rue du Parc. Bien, en ce qui concerne le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, j'ai pris des exemplaires. Ceux qui n'auraient pas d'exemplaire papier, qui souhaitent un exemplaire papier, prenez, faites passer. S'il n'y en a pas assez, je le rendrai. Voilà, faites passer. De ce côté-là. Bien, je rappelle donc en historique que la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite par une délibération du 30 juin 2008 et qu'actuellement, les demandes et autorisations d'urbanisme qui sont délivrées par la commune de Verberie sont régies par un plan local d'urbanisme qui a été approuvé en 2001. Bon, ce document aujourd'hui doit évidemment être revu, vu l'évolution du contexte législatif et puis ensuite concernant les souhaits d'aménagement futurs. Alors, il y a eu un travail, je dirais classique, de diagnostic territorial et ensuite un premier débat au conseil municipal en janvier 2011 concernant le projet d'aménagement et de développement durable, un travail d'avril 2011 à juillet 2013 sur les différents documents graphiques écrits, ensuite de nouveau un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable en octobre 2013, débat complémentaire au sein du conseil municipal pour intégrer les dispositions du Grenelle de l'environnement. Ensuite, il y a eu les élections 2014, donc le changement de municipalité, et l'équipe, la nouvelle équipe, évidemment, a repris les études, s'est fait présenter le diagnostic territorial, les orientations retenues, et commencé à travailler sur le règlement graphique, la présentation pédagogique du règlement écrit du PLU, et l'étude du projet de règlement écrit. Bien, ceci dit, aujourd'hui, après les élections, donc, poursuite de la révision du PLU pour une mise en application avant mars 2016, afin d'être compatible avec le schéma de cohérence territoriale. Alors, il n'a pas s'agi de reprendre la révision, de reprendre tout à son début, hein. Il s'agit de prendre en compte en fait le travail déjà réalisé par l'ancienne équipe et réalisé par le bureau d'études qui était déjà bien engagé et de la réorienter conformément aux engagements que nous avons pris devant les habitants lors des élections. Alors nous appuyons principalement sur 4 orientations, mais après on va examiner le projet d'aménagement et de développement durable en détail. Pour nous, limiter l'urbanisation après une période d'expansion rapide, Le premier projet prévoyait de l'ordre de 15 hectares supplémentaires. C'était pour nous excessif sur notre territoire très contraint. Nous avons donc réduit de manière très importante cette superficie. Ensuite, autre point important, préserver notre patrimoine bâti naturel et agricole et garder le dossier de l'intégration au parc naturel régional Oise Pays de France ouvert. Développer le tourisme sur la zone des étangs au nord de Verberie avec possibilité d'accueil d'un site d'hébergement et développer l'activité économique sur la zone de la main fermée au nord de la voie ferrée. Voilà. Je voudrais indiquer qu'après ce débat, nous relancerons la concertation avec les habitants par une exposition à la mairie à compter du 12 janvier 2015. Bien, tout le monde a un exemplaire, je pense, du projet d'aménagement et de développement durable. Donc, je vous propose, je vais en fait le lire. Du moins, lire les orientations. Vous avez en face la traduction dans le plan local d'urbanisme. Je rappelle qu'il s'agit donc du document de la volonté politique de la municipalité en ce qui concerne le plan local d'urbanisme. Alors, c'est découpé en thèmes. Le premier thème abordé concerne le thème des politiques d'aménagement. Et les trois points qui sont mentionnés. Premier point, concilier diverses influences territoriales et mettre à profit la situation géographique de la commune. Maintenir le statut de pôle structurant du territoire à l'échelle intercommunautaire. Donc, schéma de cohérence territoriale de la Basse-Autonne et la Plaine des Traits. Et troisième point, appuyer l'identité communautaire, ou communale, pardon, sur le statut de ville-relais dans le triangle Compiègne-Senlis-Creil. Voilà trois points qui sont abordés dans ce thème-là. Le thème des équipements publics et d'intérêt collectif. Donc un seul point, renforcer le degré d'équipement de la ville en identifiant un îlot préférentiel pour l'accueil de nouveaux équipements, qu'ils soient d'intérêt intercommunautaire, intercommunal ou communal. Le thème de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Assurer, premier point, assurer une gestion équilibrée et durable des vallées et participer à la mise en place du canevas de la trame bleue à l'échelle nationale. Préserver le coteau boisé et le plateau sud de tout projet d'urbanisation et veiller au maintien de la vocation forestière et agricole de leurs parcelles. Maintenir la coupure d'urbanisation existante entre l'entrée est de la ville et la commune de Saint-Yne par la préservation des espaces naturels et agricoles. Préserver les originalités paysagères du territoire, exemple fonds de Noël. Garantir la pérennité de l'assise agricole du territoire, patrimoine paysager remarquable et le support d'une économie locale. Mettre en place des outils réglementaires adaptés pour le maintien des massifs boisés et des boisements structurants présents à l'échelle territoriale. Quatrième thème, thème des continuités écologiques et des richesses écologiques. Maintenir la fonctionnalité des axes majeurs de déplacement pour les animaux. Respecter les équilibres écologiques, répertorier et évaluer les éventuelles incidences du PLU. Assurer la protection des espaces naturels d'importance prioritaire, Natura 2000. Voilà, au niveau déjà de ces quatre thèmes-là, on pourrait y revenir après. C'est peut-être l'occasion d'en parler, de débattre au niveau de ces quatre thèmes-là.
L'incidence des zones humides, on la retrouve dans quel thème ? Pardon ?
Il faudra la rajouter lorsque, évidemment, avant que la fin ait lieu, puisque ce sera une obligation.
Oui, ça deviendra non constructible à ce moment-là.
Enfin, ça, ouais.
C'est pas, ça même si la zone de
ça va impacter,
ça va impacter.
Ça va impacter tout ce qui est développement économique.
Ben, ça en fait partie. Il est vrai que sur notre territoire, c'est très très important, puisque il y a déjà une partie des zones humides qui sont fixées. Je rappelle pour tout le monde que nous sommes sur 3 bassins versants. Donc il y a 2 bassins versants sur lesquels les zones humides sont validées. Le bassin versant Oise-Aronde, ensuite le bassin versant de la Nonette, mais bon, pour nous, de toute façon, nous n'avions pas de zone humide, mais celui qui reste à valider, c'est évidemment celui qui est le plus critique pour nous, c'est le bassin versant de l'Automne, et là, typiquement, on verra tout à l'heure, hein, nous avons des zones qui sont potentiellement, ou du moins aujourd'hui, qui sont regardés de près comme étant des zones humides, et cette affaire-là serait, pour nous, on va se battre pour que justement elles ne deviennent pas des zones humides. Alors ça, c'est typiquement, c'est une action qui est tout à fait, comment dire, cohérente, enfin avec l'ancienne équipe, on est, je crois, tous en phase sur cette affaire-là, pour que, notamment, le domaine de la main fermée ne devienne pas une zone humide.
D'autant plus que les zones potentiellement humides, il faudra démontrer qu'elles ne sont pas humides. Par une étude, si vous voulez, hein, pour qu'elles soient potentiellement humides. Et alors après, il faut faire des études pour démontrer qu'elles ne sont pas humides.
D'accord. C'est à nous de démontrer.
C'est à nous de démontrer qu'elles ne sont pas.
D'apporter la preuve. Donc c'est pour ça que le mot potentiellement humide, il faudra qu'il soit supprimé. Hein.
Alors c'est la décision qui a été prise dans le bassin de la Nonette, à la demande de toutes les communes présentes, ils ont supprimé tout ce qui était potentiellement humide. Bon, nous, j'espère que ce sera la même chose, hein, et on va le demander au niveau du Sageba. Autre point aussi qui est demandé au Sageba, c'est que donc c'est lui qui justement est en charge quelque part de faire le lien avec les services de l'État sur les zones humides aujourd'hui, de nous aider. Et ce qu'on demande au Sageba, c'est qu'on nous fasse voter sur ces zones humides une délibération. Nous, on aimerait... Voilà, des zones humides, de toute façon, on en a déjà beaucoup. Même quand on retire les zones sur lesquelles on n'est pas d'accord, il en reste énormément. Toute la partie qui est au sud de la voie ferrée, ce sont des zones humides dès qu'on a dépassé l'habitat.
Et puis aujourd'hui, il n'y a eu aucune concertation, il n'y a eu aucun bureau d'études, alors que sur l'autre Sage... Il y a eu un bureau d'études privé qui a travaillé. Alors là, c'est l'État et le Dréal qui imposent la cartographie sans aucune concertation, comme d'habitude d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que le PPRI, il y a eu une concertation sur le PPRI, hein, et cette concertation, c'est sur le dire, on vous a donné les cartes à la fin de la réunion. Ouais. La concertation de l'État. On aurait pu vous les donner avant la réunion. Non, on vous les donne à la fin de la réunion. Moi d'ailleurs, je n'en avais pas parce qu'il y avait trop de cartes, alors on les a pas fait. Mais ça, ce sont les méthodes de l'État et de la DREAL. C'est-à-dire quoi ? On vous fait une réunion, on vous fait un catéchisme, et puis après, pour pas que ça bouge trop, eh bien, on vous donne les enveloppes à la fin de la réunion, une fois que la réunion est clôturée. Hein. C'est, ben, ça, c'est les mêmes méthodes que là. Parce que là, ce sont exactement les mêmes méthodes. Que derrière le Sageba, c'est la DREAL. Hein. C'est la DREAL qui impose.
Bon, toujours est-il que les zones humides, ça peut impacter de manière majeure les aménagements qui sont prévus sur la commune. Et surtout, évidemment, les zones humides qui sont sur le bassin de l'Automne. Alors, comme on le disait tout à l'heure, alors tu disais, Patrick, que c'est plus constructible. En fait, c'est pas tout à fait exact. Hein. On peut faire des compensations, ce qu'ils appellent des compensations, c'est-à-dire... il faut trouver ou recréer des zones humides à 150% de la surface. Hein, c'est-à-dire qu'il faut retrouver 50% de plus et sur le même bassin. Donc c'est quelque chose de toute façon qui est très onéreux. Et en plus, il faut trouver les endroits pour le faire.
Sachant qu'en général, c'est un porteur de projet, par exemple industriel, sur cette zone, il appartient au porteur de projet d'apporter les mesures de compensation. Voilà. Donc on sait effectivement que... voilà. La difficulté, c'est qu'effectivement, il faut les trouver, parce que toutes les communes sont confrontées, et ceux qui ont des zones humides, sont confrontées à la même problématique. Donc il va y avoir concurrence pour trouver ou aménager des zones humides. Voilà, c'est-à-dire que si on a un aménageur sur notre zone, il faut qu'il accepte
de payer plus cher.
De payer plus cher et de trouver des zones, de créer des zones humides à sa charge. Donc ça complique. Ça complique effectivement la commercialisation du site.
Alors il faudrait que le territoire présente vraiment un atout majeur pour cette entreprise, voilà, pour qu'elle accepte de payer un surplus.
Ah non, c'est même pas le fait de payer, c'est qu'il faut que vous trouviez physiquement.
Ah oui, je suis d'accord.
Et à moins de temps de mettre, parce qu'encore il y a une réglementation. Donc c'est absolument impossible de trouver d'autres terrains pour compenser, parce que comme tout est humide dans le coin.
Si c'était sur la...
On pourrait remonter sur d'autres communes.
On pourrait remonter sur le plateau et inonder, faire monter de l'eau pour pouvoir inonder un coin. Bon,
Et encore, le plateau, il est sur la Monette.
On pourra faire du riz.
Bah, cette histoire de compensation, ça paraît très difficile à appliquer.
Bah, peut-être que la loi sera revue, hein, parce que je pense que les difficultés au niveau national seront telles que le dispositif sera peut-être revu par le législateur dans les années à venir. Hein, par le législateur dans les années à venir. Parce
on ne fait
que
jamais de recul.
Oh, non, mais écoutez, voyez ce qui se passe, par exemple, le problème qu'il y a à Sivens. Il y avait aussi, enfin, les écologistes avaient énormément mis en avant le fait qu'on détruisait des zones humides. Donc on voit bien que l'histoire des zones humides, ça peut conduire très loin.
Les zones humides n'existaient pas à cette époque-là. Oui. La notion de zone humide est apparue l'année dernière.
Voilà.
Maintenant, et lorsque Sivens a été fait, il n'y avait pas de zone humide, ça
n'existait pas. Et maintenant, ils sont en place. Donc les détracteurs se sont saisis de cette nouvelle contrainte pour s'opposer, trouver un autre argument de contestation. Donc ça, c'est sûr que c'est problématique pour le développement des territoires.
Alors, on vient d'évoquer les zones humides, hein, mais puisqu'on est sur ces évocations qui touchent l'eau, on a évidemment le PPRI qui a été évoqué. Donc vous avez tous vu, je pense, les cartes d'aléas d'hauteur d'eau qui ont été calculées pour une crue centennale hypothétique. Bon, là, je dirais qu'on s'en sort pas trop mal, notamment sur la zone de la main fermée, même si c'est vrai, on peut avoir jusqu'à, c'est ce que annonce la carte, hein, jusqu'à presque un mètre de hauteur d'eau. Mais pour l'instant, ça n'empêche pas de construire. Autre point de débat sur ce...
Et la zone de la main fermée sur la partie qui joue ce serveur, la partie industrielle a été conservée aussi ?
Pour l'instant, nous ne l'avons pas conservée.
Vous n'avez pas conservé la zone industrielle de la communauté ?
Non, on y viendra tout à l'heure.
C'est pour faire perdre à la communauté de communes parce que bon, ces terrains ont été, dans une partie, ont été achetés.
Oui, enfin, il y a quelques morceaux qui ont été achetés. C'est encore extrêmement parcellaire, j'allais dire.
Oh, il y a bien un tiers qui a été acheté.
Il y a plutôt un quart. Il est très morcelé.
Il est payé en fonction justement d'un développement industriel.
Mais je vous propose d'en rediscuter tout à l'heure quand on sera dans ce chapitre-là. Donc, je reprends, moi. Au thème où je m'étais arrêté, donc thème de l'habitat, maintenant. Premier point, donc trois points sur le thème de l'habitat. Planifier la réalisation de nouveaux logements, notamment par la requalification du bâti existant, avec le souci constant d'un urbanisme de qualité. Deuxième point, conserver l'équilibre de l'habitat par le maintien d'une offre en logement diversifiée, dans un objectif de mixité urbaine, tant sur le plan des types de construction, individuels, collectifs, que dans les types de logements locatifs en accession. Troisième point, encourager les solutions constructives qui favorisent une réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Bon, il faut dire que de toute façon, les bâtiments maintenant doivent être, jusqu'à présent, peut-être que ça va changer, mais doivent être maintenant construits avec la norme RT 2012, Donc cette norme-là, elle est quand même déjà très exigeante du point de vue de la consommation énergétique, même s'il peut y avoir toujours des solutions encore plus innovantes. Thème de l'espace urbain et de l'amélioration urbaine. Donc là, 6 points. Préserver la valeur patrimoniale du cœur historique de la ville. Conforter les ambiances urbaines ressenties par la mise en place d'outils réglementaires adaptés. Recenser les éléments remarquables du patrimoine bâti, immeubles, murs, édifices, et assurer leur préservation. Maintenir une trame végétale intra-urbaine, gestion encadrée des parcs boisés existants, traitement qualitatif des espaces publics. Poursuivre l'embellissement de la ville et de ses espaces publics. Veiller à l'insertion du bâti, qu'il soit à usage d'habitat, d'activité, d'équipement, dans son environnement paysager, par des choix stratégiques en matière d'architecture, de volumétrie, d'implantation, de traitement de l'espace non bâti. Alors, peut-être faire un arrêt à ce moment-là sur les commentaires. Je sais qu'on a des conseillers municipaux qui travaillent beaucoup sur cet aspect-là.
Le nombre de logements, il y avait 15 hectares de propriétés dédiées à la construction.
Oui.
C'est
après, on peut lire le paragraphe maintenant, hein. C'est plutôt le thème de l'urbanisme et de la planification urbaine qui vient juste après. Donc je vais le lire et on reprend la discussion. Donc thème de l'urbanisme et de la planification urbaine, planifier un avenir démographique raisonné en cohérence avec la capacité des équipements, les nombreuses contraintes attachées aux sites de vallée et les particularités naturelles, paysage, écologie, particularités naturelles du territoire. Donc, s'ensuit après un tableau de la démographie communale que vous pouvez tous voir, donc je ne vais pas le commenter. On remarque simplement qu'entre 1980... Un seul point. Entre 1999 et 2010, il y a donc eu 419 logements supplémentaires sur Verberie. Ensuite, contribuer aux objectifs démographiques du SCOT. Alors, le SCOT, lui, s'est fixé comme objectif 1300 logements neufs à l'horizon 2022, soit 130 logements neufs par an, donc à l'échelle des deux communautés de communes, sachant que 40% de l'effort de construction doit être porté par l'ensemble des communes hors pôle, donc, et 60% de l'effort de construction sur l'ensemble des communes pôle. Donc Verberie appartient aux communes pôle avec 5 autres communes. Voilà, ce qui donne une projection théorique au niveau de ces communes pôles de 78 logements neufs par an pour l'ensemble des 6 communes. Après, comment sont répartis ces logements entre les 6 communes, ça le SCOT ne nous le dit pas.
Ah bah c'est-à-dire que les plus grosses communes en prennent plus, enfin,
Il n'y a pas de règle derrière.
Il n'y a pas de règle.
Voilà.
Il n'y a pas de règle. Seulement, il est évident que ça fait une dizaine de logements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le SCOT, c'est 18 logements à l'hectare.
Tout à fait.
Et 18 logements à l'hectare, si vous retirez 33% pour la voirie, etc., ça vous fait 18 logements pour 6600. Ce qui vous fait grosso modo des terrains de 350 mètres carrés. Je m'étais déjà élevé parce que, bon, et là, et c'est là-dessus que lorsque vous supprimez les 15 hectares qui sont dans le SCOT, et sur lesquels il a fallu se battre pour pouvoir les conserver, il était important d'avoir une réserve, même si on ne mettait pas en constructibilité immédiate, mais le mettre en 2 AU ou en 2 AUH. Pour pouvoir avoir une réserve pour plus tard. Car si vous vous supprimez les 15 hectares, vous pouvez les retirer momentanément et les mettre en 2 AUH, c'est-à-dire qu'il faudrait refaire une révision de plus pour pouvoir les construire. Mais là, avec la politique de l'État actuel, vous aurez les 15 hectares vont disparaître du SCOT. Et lorsque vous voudrez récupérer de la constructibilité, là, ce ne sera pas possible. Et c'est pour ça. Ça n'était pas dans un intérêt de grossir,
c'était dans un intérêt de garder et préserver des terrains pour l'avenir, en constructivité, d'autant plus que, je vous dis, ça fait 18 hectares après des maisons. Bon, il y a des gens qui sont venus à la campagne. Bon, aujourd'hui, des constructions de maisons sur 300 mètres carrés, ça, bon, ça n'offre plus grand intérêt de la campagne. Hein. C'est pour ça qu'il avait été conservé ces 15 hectares dans un souci de réserve plutôt foncière au niveau de la constructibilité qui, s'ils si ne sont plus, disparaîtront. J'avais le journal 2, l'environnement, justement, veut encore diminuer. Donc nous étions battus pour garder tout ça. Maintenant, j'explique pourquoi ça.
Oui, oui. Il est clair que nous, on n'avait pas du tout les mêmes orientations. Il est, enfin, dans nos engagements, notamment vis-à-vis des habitants, on avait été très clair à ce sujet-là, sur la poursuite de l'urbanisation.
Non, mais c'est pas. Il n'y a pas une obligation d'urbaniser.
Tôt ou tard, on y viendra. Alors, autant se préserver et se protéger maintenant avant d'arriver aux extrêmes qui sont sûres et certaines à arriver dans les années à venir. On est trop près de Paris pour qu'on ne souhaite pas urbaniser avant.
Tout, si
c'est pas vrai, c'est pour vous le savez très bien.
Mais je vous dis que non, si vous mettez en 2 à UH, il faut de nouveau une révision de plus.
Oui, mais elle sera faite à ce moment-là. Et comme vous dites, ce sera très facile de le faire, que là, si on s'occupe tout de suite, on est tranquille, on préserve notre tranquillité.
C'est en tout cas, vous n'aviez pas tous le même positionnement, parce que moi, je me rappelle avoir eu une discussion avec M. Lamy, et qui m'avait dit à l'époque. Que l'urbanisme, oui, c'était vraiment important d'être modéré. Et parce que
mais là, de toute façon, là, c'est extrêmement modéré, puisque le SCOT dit.
Oui.
C'est extrêmement modéré, puisque de toute façon, c'est 78 logements neufs pour 6 communes par an. Donc, c'est verrouillé.
Bon, on a plutôt l'impression là qu'il faut vraiment faire. Être très vigilant parce que Verberie est très urbanisé. Les derniers temps, on voit bien dans ce que M. Arnoux disait qu'il y a eu une augmentation forte.
Mais il était nécessaire de faire une augmentation importante, car s'il n'y avait pas eu d'augmentation, d'abord certains ne seraient pas là, et puis d'autre part, s'il n'y avait pas eu d'urbanisation, vous n'auriez plus de commerce. Ce serait lavé de ce côté-là. L'urbanisation a été faite uniquement pour garder un pôle attractif et un pôle commercial. Aujourd'hui, si vous n'aviez pas les 4 000 habitants, vous n'auriez plus.
Oui, mais ça, peut-être, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller plus loin non plus. Ça ne sert à rien de demander à la commune avec la construction. On a besoin de passage. Vous allez construire des appartements, vous allez construire des maisons, ce que vous voulez. Les infrastructures, on est déjà limite dans certains domaines au niveau des infrastructures. Et ben, on va les mettre où ? On va faire comment ?
Si
on sait très bien qu'on est très restreint au niveau de la commune. On sait très bien qu'on ne peut pas s'étaler.
Si on prend les écoles, actuellement, on est quand même à saturation au niveau.
Non, il y a encore une classe qui peut être reprise.
Ah non, il n'y a plus de classe.
Je regrette.
Le RAM.
Encore une classe qui a été préparée, qui reste, qui pourrait être reprise.
À la maternelle, je parle. Il n'y a plus de classe disponible à la maternelle. On est d'accord qu'il reste
une classe. Il y avait une.
Mais aujourd'hui, la situation, M. Flouy, est qu'il n'y a plus de.
Il y a peut-être une bibliothèque à la place.
Non, pas du tout, M. Flouy. Non.
Toutes les
salles de classe.
C'est en primaire, il reste.
Il reste en effet une messager qui a été déplacée à l'école primaire des remparts. Les postulés de l'école maternelle, il n'y a plus de place et il y a quand même deux préfabriqués qui sont toujours intentionnellement préfabriqués et qui sont un peu limites, on va dire. Donc voilà, il reste en effet une salle en primaire qui sera certainement utilisée puisque les effectifs sont importants à la maternelle et puis après vous
savez bien les communes. La population, lorsqu'il y a une construction, il y a des populations qui sont jeunes et qui arrivent. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a un vieillissement de la population et on ferme des classes. À chaque fois, c'est comme ça. Et vous verrez ce que je vous dis, vous fermerez des classes. Vous fermerez des classes parce que les arrivants sont des populations jeunes et ont des enfants. Et puis au fur et à mesure, il y a un vieillissement de la population qui fait que, et d'ailleurs, ça,
oui.
Si vous ne construisez pas, vous avez une diminution automatique de
la structure urbaine quand même est en train et change. On a des petits logements, par exemple des F2 et des F3, qui ont été construits rue du Parc. Hein. Il y en a 108 qui ont été construits là-bas. Généralement, c'est des couples jeunes. En fait, il y a les deux. Il y a soit des couples jeunes, soit des... C'est très bien, d'ailleurs, hein, qu'il y ait une telle publicité. Mais les couples jeunes qui viennent, généralement, ils ne viennent pas pour rester là.
De la même façon que dans les logements sociaux, ça bouge énormément, monsieur Boury. Il y a un turnover terrible dans les logements sociaux à Pompidou, ou les autres, que je connais bien. Ces dernières années, il y a un turnover phénoménal. Moi, je n'ai jamais réussi à connaître mes voisins. Quasiment, il reste 3-4 mois, ils s'en vont, au maximum un an. Donc, bon, après, le parc est vieillissant, c'est une autre paire de manches. Mais c'est vrai que ça tourne. C'est, les gens ne restent pas parce qu'ils sont soumis bien souvent aux contraintes de travail. Et quand ils trouvent du travail ailleurs ou qu'ils ont d'autres projets qui peuvent s'en sortir, les gens ne restent pas.
On a quand même une mobilité professionnelle qui est très importante.
Voilà,
il y a des chiffres qui sont incontestables. Il y a le nombre de personnes par logement il y a 20 ans était de 3,5 par habitant, par logement.
Oui.
Il y a 10 ans, c'était de 2,9 par logement. Aujourd'hui, elle est de 2,2. Bon, cette descente a fait que certaines communes, toutes celles qui n'ont pas construit, ce sont la diminution de population, en diminution de population, et avec la diminution de DGF, bien entendu, qui va avec. Hein, parce que automatiquement, vous avez la diminution de la DGF, puisque vous avez une baisse de population, l'État vous fait diminuer vos recettes.
Oui, mais l'occupation des logements dont vous parlez, ça n'est pas dû uniquement à la diminution de la population, c'est dû beaucoup aussi à la décohabitation, malheureusement, aux séparations des familles, et au départ des enfants qui étaient foyers plus jeunes. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a moins de personnes dans les logements parce que les familles.
C'est bien pour ça, ça va rentrer dans mon sens.
Non, pas du tout. C'est parce que justement, parce que ça reste des solutions d'attente. Les jeunes qui quittent le foyer familial, effectivement, et là où autrefois il y avait une famille de 6 personnes, on va avoir 3 logements avec un père d'un côté, une mère avec les plus jeunes et les grands enfants. Ce potentiel existe déjà, ce potentiel. Enfin, sur la commune, il me semble qu'il existe. Sincèrement, on a quand même l'impression qu'on est un peu à l'étroit.
Aujourd'hui, on ne peut ni financièrement, on n'a ni les finances pour, ni les lieux pour construire des écoles supplémentaires ou des salles de classe supplémentaires. Ça, c'est. Ou sinon, dites-nous, on est prêt.
Je vous dirai si vous avez besoin, mais je ne suis pas sûr d'accord. Pour obtenir une subvention.
Ah oui, bien sûr.
Oui, mais ça ne suffit pas. Pour trouver une subvention, il faut quand même bien ça. Ça nécessite du matériel supplémentaire, ça nécessite.
Ah, bah oui, non, mais bon.
Est-ce qu'on est prêt à dire, vous dites tout à l'heure.
Non, mais à partir du moment où vous touchez des subsides supplémentaires. Parce qu'une augmentation de population, vous ne pouvez pas avoir le beurre à l'argent du beurre.
Je vais dans votre sens où vous disiez tout à l'heure que si la population baisse, on a des dotations en moins.
Oui,
d'accord.
Mais si la population augmente, on a des dotations en plus.
Ah, oui, et on a aussi
c'est
des
pas cas.
Plus.
Bah, quand on va avoir des
supplémentaires,
vous avez.
Je crois que c'est un bon équilibre entre le nombre d'habitants et les activités économiques qu'il peut y avoir hein, aujourd'hui. Telle qu'est faite la fiscalité, c'est un peu ça derrière.
Et à un moment donné, les plans de circulation élargis. Parfois, si on prend la rue de Paris qui est déjà extrêmement saturée au niveau de circulation, tout comme le triangle rue Saint-Pierre, rue Firmin et rue de la République, on ajoute des logements, c'est ajouter énormément de circulation.
Non, mais moi, je n'ai pas dit qu'il fallait. Construire. La preuve, c'est que on a mis 78 logements. Donc, ce qui fait 7 logements par an sur 6 ans, 6 fois 7, 42. Donc, c'est bien écrit dans le stock, ça. Donc, j'ai jamais dit qu'il fallait construire à tout va. J'ai dit qu'il fallait se faire des réserves foncières pour pas qu'au fur et à mesure, lorsque dans 15 ans, je ne sais pas moi, les avenirs, il ne faut pas se bloquer. Mais il n'y a aucune obligation, une fois que vous avez classé ces terrains en deux à usage, puisqu'il faut en plus refaire une révision, et Dieu sait que ça dure longtemps, ça vous permet d'avoir une sécurité. C'est tout ça, ça s'arrête là. Moi, ça s'arrête là. En aucun cas, je n'ai dit qu'il faut recueillir 100 logements par an en Qatar.
Qu'est-ce qu'on
en fait? Donc, vous voyez, on vient sur le sujet.
C'était plutôt 13 logements par an, si je me souviens bien des chiffres que vous aviez.
Oui, enfin, 13 logements par an, vous verrez sur les permis de construire, comme c'est facile à gérer, le jour où vous allez avoir 13 logements, puis l'année d'après.
Ah ben c'est que... Non, mais c'est une moyenne, on est d'accord.
C'est une moyenne.
Là-dessus. C'est une moyenne, donc c'est le SCOT.
On est d'accord.
Bon.
Maintenant, si on prend 13 logements par an sur 10 ans, on arrive à 130 logements sur Verberie. C'était... Vous aviez pris une règle en divisant par 6, hein, en fait. Hein.
Non, mais alors,
les 78, je suis d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs on est revenu sur cette ligne-là. Et derrière ça, typiquement aujourd'hui, nous, dans les zones que l'on a conservées, pour
mais
mettre...
130 logements, mais attendez, 130 logements pour les pôles et les petites communes.
Non, c'est 130 logements neufs par an. Ça, c'est pour l'ensemble du SCOT, vous avez raison. Ceci dit, dans le calcul qui avait été fait, on arrivait, pour Verberie, à 13 logements par an, soit 130 logements sur 10 ans. Le hasard des chiffres fait qu'on retombait sur les mêmes chiffres.
60%, vous avez 78 logements divisés par une moyenne de 6 communes postes, ça faisait 13 logements par an.
Voilà. Le hasard des chiffres fait qu'on retombe sur les mêmes, ou des calculs retombent exactement sur les mêmes chiffres. Et là, typiquement, dans ce qu'on garde, sachant qu'il y a quand même les dents creuses derrière... à construire. Beaucoup. Comment ?
Ah, c'est...
Alors,
on a répertorié quand même, enfin, la vision qu'on a des choses, c'est pas non plus d'arrêter les constructions en Verberie, loin de là, hein, puisqu'il faut que quand même la ville elle puisse continuer de vivre. Mais on n'est pas allé à l'extrême, enfin, où vous vouliez aller de votre côté. Nous, on a essayé de trouver un juste milieu. On a répertorié toutes les dents creuses déjà dans un premier temps, voir ce qu'on pouvait construire et la possibilité qu'il y avait sur les dents creuses, et il y en a beaucoup.
Oui,
on en a réservé quelques-unes justement pour que aérer la ville, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait des constructions dans certains endroits et qu'on retrouve il y a certains lots boisés qui sont intéressants dans Verberie, sur lesquels on ne souhaite pas voir venir des immeubles ou des choses comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a préservé aussi certaines choses. Mais on ne voulait pas non plus sur le fait de mettre toutes les zones en zone à urbaniser. Mais malgré tout, on en a quand même mis, je pense, quelques-unes dans cette situation-là.
Bah, vous les avez sur la carte.
Sur la totalité.
Alors, sur la carte, on voit que le terrain de football, il y aurait une nouvelle zone sur le terrain de football.
Le troisième terrain.
C'est quand même un petit peu embêtant pour le club de football.
Il reste deux terrains. Enfin,
moi, j'ai joué au football très longtemps dans plusieurs stades. J'ai jamais joué sur trois stades. Hein. Même à Compiègne, où j'ai joué à Compiègne, on jouait sur deux stades. On avait deux stades pour jouer.
Oui,
et à Compiègne. À Verberie, on a trois stades.
D'accord, mais enfin, ça fait un espace vert, justement, d'aération qui...
On peut très bien...
À cet endroit-là, les espaces verts, il y a ce qu'il faut derrière.
On peut très bien prévoir là, dans le cadre d'une constructibilité, le fait de réaménager, et ça ferait d'ailleurs une annexe pour rejoindre un peu la zone de la gare qui est dans un petit peu état aujourd'hui, justement, d'avoir un pavillon entre la rue des Moulins et la gare. C'est pas... Alors après, il faut voir ce qu'il pourrait y être dessus, hein, mais bon...
Il y a deux terrains
qui sont très bien pour jouer au football.
Il y a un terrain qui est un terrain d'honneur.
Un terrain d'honneur, mais l'autre terrain. Les enfants peuvent très bien s'entraîner dessus.
On a rencontré l'association les enfants ne jouent que sur le terrain côté du terrain d'honneur. Sur l'autre terrain, il n'y a jamais personne.
Si, ils s'entraînent dessus un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus... voilà.
J'y ai habité en face.
On n'est pas dans une ville de 200 000 habitants où il y a trois stades ou quatre stades.
Je pense qu'il est plus gênant de construire des maisons juste en dessous de pylônes de lignes de tension. Pour les jeunes, ça, je pense que c'est plus dangereux. Actuellement, les études scientifiques disent plutôt qu'il faut appliquer le principe de précaution de 100 mètres. Ça me paraît plus gênant pour les jeunes que de mettre des logements près d'un terrain de football.
Bon, il y a une autre partie ensuite qui est à la gare, avec une requalification de la zone de la gare. Il y a une autre partie qui est du côté de la rue de la Cendrière et du côté Roseillé, parce que là, il y a eu une zone, aujourd'hui, justement, on nous disait qu'elle était zone humide. Elle n'est plus du tout zone humide. Elle a été remblayée il y a, je sais pas par qui, je sais pas il y a combien de temps, mais aujourd'hui, cette zone-là, en bordure de route, elle est complètement remblayée.
Oui, mais là, je suis d'accord.
Voilà. Donc...
C'est logique, c'est...
Là, il faudra... La démonstration à faire, elle est vite faite.
Non, c'est sûr que c'est logique. Après, il reste effectivement le terrain derrière où il était prévu des immeubles.
Voilà.
Voilà. Alors, effectivement. Non, mais je ne dis pas que aujourd'hui, ces terrains-là suffisent pour faire les 42 logements ou les...
130
Non, pas 130.
Sur les 10 ans.
Oui, je suis d'accord. Je parlais des 10 ans, moi. Mais vous, peut-être d'autres choses.
Là, je parlais des 7 ou 8 logements, puisqu'il y a à faire
18.
18 divisé par 6.
13. 13
pas à l'année.
130 par 6.
Bon, ça suffit pour faire.
Ah, ouais, largement.
Largement, puisque du vertical et puis. C'est sûr que ça suffit. Ben no... C'était pas sur ce sujet-là. Hein. Notre vue,
en fait, c'est que Verberie, enfin, c'est déjà tellement contraint. Hein. Il y a déjà toutes les zones où on ne pourra pas construire. En plus, il y a celles qui s'annoncent. Voilà, à Verberie, ben, aujourd'hui, nous, on considère que c'est bien rempli. Quoi.
Non, mais c'est sur des choix
politiques. Hein, oui. Ah oui, ben c'est pour ça qu'on a cette discussion. Donc, ben je ne vais pas lire le reste de ce thème, parce qu'on nous annonçait les 18 logements à l'hectare. D'ailleurs, pour moi, les 18 logements à l'hectare, enfin, on ne précise pas de quelle densité il s'agit, s'il s'agit dans le SCOT de densité nette ou de densité brute. En fonction qu'on prenne l'une ou l'autre, on inclut la voirie ou pas.
Ah non, c'est du brut.
Eh ben, oui. En tout cas, c'est marqué nulle part dans le SCOT. Hein, vous pouvez. Oui. Les écrits, eux, ne le disent pas.
Non, mais ça, c'est le service de la préfecture. Hein.
Encore la préfecture. Ah, je vais finir par réagir, monsieur Fourri. Hein. Il n'y a pas longtemps que j'ai quitté la préfecture, n'en rajoutez pas. Mais c'était quand même bien sympa, la préfecture.
Vous devriez savoir que c'est bruit. Vous n'étiez pas dans ce service.
J'étais pas dans le service, donc c'est pour ça que quand je ne le connais pas, je ne la ramène pas.
Mais
quand même, de temps en temps, je me dois défendre mon ancien employeur et celui qui me donne aujourd'hui ma retraite. Oui, mais enfin, l'État, il... On a quand même fait parfois des bonnes choses ensemble.
La préfecture ne va pas le retirer.
Il y a toujours moyen de discuter. Le tout, c'est de. Il faut aussi mettre du sien. Ah, si, il faut y mettre du sien. Moi, j'arrive.
Vous mettez du sien pour discuter avec l'État sur le PPRI. Vous ministrez
du monde. Le PPRI, c'est pas moi qui digère non plus.
On va en tout cas essayer d'influer sur cette affaire-là, au moins sur les zones humides.
Autre affaire, on pouvait discuter.
Oh oui, on peut discuter sur la qualité de la confiture pour les
Alors vraiment, vous n'avez pas une grande idée de l'État. Hein. Mais l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous.
Ceci dit, on va revenir à notre sujet. Sinon, on peut partir longtemps. Non, mais on peut y consacrer un certain temps, en tout cas. Bon, derrière, sur les autres thèmes, on a le thème des transports, des déplacements et du stationnement. Donc là, sur ce thème-là, il y a quand même 8 ou 9 points. 8. Donc, travailler sur un traitement qualitatif de l'artère principale et de ses abords, mise en scène d'un boulevard urbain où le piéton a sa place. Le deuxième point, entamer une réflexion de mise en valeur des bords de l'Oise et une réappropriation des berges. Troisième point, évaluer la praticité des cheminements doux, piétons, cyclistes existants à l'échelle de la ville et étoffer le réseau, création, remise en fonction de liaisons douces comme un élément de valorisation pour la ville. Quatrième point, préserver voire étoffer le maillage de chemins ruraux qui sillonnent le territoire communal, rôle capital dans la desserte des terres agricoles, lieu de promenade pour les habitants. Point suivant, entamer une réflexion sur une meilleure connectivité du parc urbain avec la ville. mise en valeur du patrimoine historique, lien physique, gestion du stationnement. Engager des actions pour un embellissement des entrées de ville. Poursuivre les actions en faveur d'une répartition efficace du stationnement à l'échelle de la ville, on y revient, notamment dans l'hypercentre. Opter pour une organisation urbaine rationnelle pour limiter les déplacements des habitants. Bon, dans tous ces points-là, il y a un point, c'est le stationnement. Le stationnement, c'est aujourd'hui, avec nos modes de vie, le nombre de voitures que l'on a par foyer, c'est quelque chose qui est de toute façon extrêmement difficile. Ça touche l'hypercentre, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, ça touche tout ce qui est logements dits sociaux, parce que les règles de l'urbanisme font que l'État autorise systématiquement la construction avec une seule place de stationnement par foyer. Même dans les logements sociaux, les gens, ils ont plutôt deux ou trois voitures. Donc ça mène forcément à des situations difficiles. Voilà, sur le thème des transports, chemins ruraux...
Est-ce que vous avez maintenu sur les stationnements, les deux places de parking obligatoires
Alors ça, c'est dans le règlement, et on est... il faut au moins ça. Mais là, on est plus loin que le PADD, on est dans le règlement. C'est le minimum, oui. C'est le minimum. Voire, pour certains emplacements, puisqu'il y a une zone qui est encore en collectif, prévoir des zones, outre les deux places de stationnement par logement, des places de stationnement pour visiteurs supplémentaires.
Dans le grand collectif. C'est ce qui est fait d'ailleurs.
Il y a déjà des problèmes qui existent déjà,
je pense. Oui, du parc, oui, ça existe un peu.
Dans le parc.
Ah oui.
C'est déjà le cas. Il y a assez de stationnement, de toute façon.
C'est-à-dire qu'il y a quand même des propriétaires ou locataires des appartements ont une ou deux voitures, ont des emplacements réservés pour leurs véhicules. Mais lorsqu'ils ont des familles ou autres qui viennent, les rues qui sont autour sont complètement engorgées de voitures stationnées n'importe comment parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas prévu dans le site même des places pour visiteurs.
C'est le cas déjà derrière. Mais ils ont largement de quoi stationner.
Alors qu'il y a de la place pour le
Il y a un terrain, il reste un terrain. Vous pouvez le faire entre voitures parking.
Alors le stationnement dans l'hypercentre, va falloir faire des efforts. Mais enfin, de toute façon, c'est marqué là, il va falloir y réfléchir. Mais le centre était
pas,
concentré.
Il y a
beaucoup
de parkings de fait.
Oui, oui.
Nombreux parkings sur la ville qui ont été faits dans les 20 dernières années.
Celui du marché,
celui
des écoles,
Les parkings sont vides. Dans la journée, le parking des écoles, il n'y a jamais personne dessus.
Oui, c'est ça.
Le problème, il est surtout là.
On a un problème de comportement. Et puis, il faudrait qu'à l'échelle d'une ville comme Verberie, quand il fait beau, c'est plus rapide de se déplacer en vélo qu'en voiture. Ou à pied. Il faut aussi peut-être qu'il y ait des évolutions dans les comportements. D'où les actions aussi sur les voies douces. On a des choses à faire dans ce domaine-là. D'autres interventions sur ce thème ? Le thème des communications numériques. Assurer le développement des communications numériques et, à une plus grande échelle, celui des nouvelles technologies de communication pour le bâti existant et les développements urbains programmés par le plan local d'urbanisme. Autre point, afficher l'objectif d'une desserte de très haut débit pour l'ensemble du territoire, villes, zones d'activité, pôles publics. Et dernier point, renforcer l'attractivité des zones économiques actuelles et projetées par la réalisation d'aménagements numériques. Voilà, bon... Je pense que c'est des points aujourd'hui qui sont un peu incontournables. Les entreprises ont besoin du numérique, mais les particuliers aussi. Ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Comment, Michel ?
Je dis pour le particulier, le très haut débit, ça apporte quoi ?
Le très haut débit, ça va apporter à un moment donné d'abord du confort pour les gens qui regardent des films ou d'autres aspects. Mais il faut bien voir qu'il va y avoir du développement dans d'autres domaines, d'autres applications. Dans le domaine médical, il y aura des...
Il faut voir dans les les années à venir.
La personne viendra chez toi avec un mini-scanner, elle te fera peut-être un mini-scanner de ton corps, et puis ça sera transféré en très haut débit sur l'hôpital où il y aura un spécialiste qui va regarder. Il y a toutes ces applications-là, ça permettra de maintenir peut-être les gens davantage chez eux. Enfin,
voilà. Il y a ceux qui travaillent aussi en région parisienne qui pourraient rester chez eux pour faire du télétravail et limiter les trajets domicile-travail. Ça, c'est vrai que ça se développe énormément. Hein. C'est une thématique qui est en pointe, on en parle depuis plusieurs années déjà. Pour notre région, hein, le Valois. Ceci dit, si on pense que le calendrier va être tenu pour le développement programmé par le Conseil Général, le très haut débit, on devrait l'avoir fin 2016, ici sur la commune de Verberie.
C'est un autre problème que nous verrons en commission des finances.
Oui, oui. Oui. Et puis après, il y a d'autres techniques qui se développent hein, aussi pour le numérique. Il ne faut pas rester à l'abri de tout ça. Hein. Les technologies avec les mobiles se développent un peu partout. Hein. La 4G, et il y aura d'autres technologies à l'avenir. En tout cas, bon, aujourd'hui, les communications numériques, c'est important et il ne faut pas rester à l'écart. Donc c'est bien un des thèmes qui a été abordé dans ce PADD et qu'il était déjà dans le PADD antérieur. Thème de l'équipement commercial. Mettre en œuvre des outils visant à maintenir une activité commerciale dynamique en améliorant notamment l'attractivité et l'accessibilité de l'hypercentre. Développement du petit commerce et des services. Deuxième point, tirer parti de la localisation stratégique du territoire pour planifier un avenir commercial et diversifier l'offre commerciale, notamment en direction des ménages des communes environnantes. Un avenir commercial, c'est...
Qui est l'offre commerciale ? Mais des petits commerces ou des...
Ah non, petit commerce.
Uniquement petit commerce.
Oui, enfin, on a le Carrefour Contact qui est là. Hein. Il faut le garder. Hein. Je ne pense pas qu'on accueillir une plus grande structure commerciale aujourd'hui.
Avec le Auchan qui est à quelques kilomètres, ce n'est pas pertinent, je ne pense pas. Il y a le Carrefour Market à Béthisy.
Là, on a des enfin, nous, il faut maintenir notre commerce de centre-ville. Hein. On a des boulangers, on a des bouchers, on a. Il y a malheureusement des domaines sur lesquels on ne reviendra pas. Hein. On n'a plus de marchand de chaussures. Je ne pense pas qu'un marchand de chaussures serait, ou de vêtements se réinstalle et puisse vivre à Verberie, malheureusement. Ouais. Mais avenir commercial, c'est bien ça. D'ailleurs, sur certains commerces, ici à Verberie, qui sont sur des niches, oui, on peut être surpris de leur zone de chalandise. Elle va très très loin. Le rayon par rapport à Verberie, ils peuvent aller jusqu'à 30 km. Voilà. Hein, je pense au terroir notamment. Il a une zone de chalandise qui est assez surprenante. Et Verberie, quelque part, il faut que ça reste. Hein, tout à l'heure, c'était marqué. Moi, la phrase qui était marquée au début, hein, appuyer l'identité communale sur le statut de ville relais, ça me plaît bien. Parce que. On voit bien que c'est ça. Il suffit de regarder, par exemple, les médecins ici. Finalement, quand on divise le nombre de médecins présents par le nombre d'habitants, on a tendance à penser qu'on est bien servi. Mais comme...
Ils ne soignent pas bien, puisqu'ils sont très nombreux.
Bon, je vous laisse argumenter dans ce sens-là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a des difficultés d'ailleurs, parce que les médecins ne veulent plus prendre de personnes supplémentaires. Et tout simplement parce qu'ils ont des personnes qui viennent de partout autour de Verberie.
Ah oui, il y a tous les médecins aux alentours.
Il n'y en a pas à Saint-Fils,
il
n'y en a pas...
Mais les
Saint-Sauveur,
ils ont fermé les
Détroits.
Voilà. Ils appartiennent.
Voilà.
Il y a trois,
voilà.
Bétis, ils étaient six, ils n'ont plus que trois.
Ouais, oui.
Verberie, il n'y en a pas.
Oui, mais ils ont toujours été un pôle d'attraction.
Oui. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, pour les médecins, enfin, d'après ce que certains m'ont expliqué, justement, le statut de ville-relais et notre emplacement, pour eux, c'est très pratique, parce que quand ils ont un cas envoyé quelque part, ils peuvent aussi bien se tourner vers Creil, Senlis et Compiègne. C'est à peu près tout ça à la même distance.
En fonction des
pathologies. Ça offre des facilités professionnelles importantes.
Ce qui serait intéressant à Verberie, c'est un cabinet médical comme il y a au Meuse. Vous
avez une pédicure, vous avez un ostamo, vous avez tout ce genre de professionnels. Ceci dit, là, c'est de la... oui, ça pourrait être dans la zone d'activité, à la limite. Hein.
Oui, non, mais pour ça, pour faire venir...
Oui, pas évident.
Pour faire venir, en fait, c'est des spécialistes.
Oui, il faut un dermato, un ostamo, un dermato, un ostamo, et puis...
C'est fait au mieux parce qu'il y avait pas, il y avait...
Ça n'existait pas.
Bon, comme à Bétizy, où ils sont en train de refaire un cabinet médical, mais pour essayer de réattirer des par un petit loyer pour pouvoir faire revenir dans des déserts médicaux des gens. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir un ophtalmo, et puis...
Ça prendra un an.
Oui.
Mais c'est sûr qu'il faut le trouver. Il faut déjà qu'ils veulent venir, chez nous. Il faut l'attirer par le... C'est sûr qu'il aura plus facilement à Compiègne que chez nous.
Il y a des professionnels qui se sont vu ça à Crépy. Il y avait la maison médicale à Crépy. Ils étaient 15. Aujourd'hui, ils sont 6. Bon, c'est la ville qui a été obligée de payer parce que autrement ils fermaient. La maison médicale, elle était 15. Il y avait radiologue, il y avait tout. Et puis, il y en a qui sont partis à la retraite. Il y en a qui ne s'entendaient plus. Donc, ils sont partis, ils sont installés chez eux. Aujourd'hui, ils étaient 6 ou 7. Mais ils ne pouvaient plus faire face donc, aux charges du camembert. Donc, c'est la ville de Crépy qui a été obligée de voter des subventions sur le cabinet médical pour que les médecins restent. Donc, si vous voulez, il y a...
Au niveau médical, si la situation reste ce qu'elle est aujourd'hui sur Verberie, on n'est quand même pas trop mal loti.
On a quand même des spécialistes pas trop loin autour de...
Puis on peut aller à Compiègne sans, pour des spécialistes, sans lice, et si la situation reste celle-là. Bon, ceci dit, on s'est un peu éloigné de tout ce qui était marqué. Mais ça mettait tout ça en évidence, le statut de ville-relais, qui est un point important. Donc le thème de l'équipement commercial, alors on vient de parler plutôt de profession libérale, mais finalement tout ça c'est un peu le même thème. En tout cas, préservation du petit commerce, et il faut qu'on réussisse à garder notre petit commerce. Thème du développement économique et des loisirs. Donc là, 7 points. Lier le développement économique du territoire au projet de déviation RN2 RN31. Donc ça, typiquement, la zone de la main fermée, ça répond à ce point-là. Réaffirmer l'identité économique du territoire, donc statut de pôle à l'échelle du SCOT, et afficher une politique volontariste pour le maintien des activités existantes et l'accueil de nouvelles activités. Donc sur la main fermée, on a à peu près quand même 14 hectares. Donc c'est quand même déjà... il faut les préserver, évidemment, des zones humides. Développer une offre d'emploi sur place pour rapprocher les actifs de leur lieu de travail et limiter ainsi les déplacements domicile-travail. Donc effet sur la production de gaz à effet de serre et évidemment sur la qualité de vie des habitants. Quand on habite à un quart d'heure de son activité professionnelle, c'est quand même beaucoup plus agréable. Sur le plan touristique, favoriser la complémentarité et la coopération avec les territoires voisins. Inscrire les vallées de l'Oise et de l'Automne comme facteurs et vecteurs de développement touristique et de loisirs. Planifier l'émergence d'une économie touristique et de loisirs en s'appuyant sur le potentiel réel du territoire, lieu d'hébergement touristique, initiation pédagogique à l'environnement, services. C'est pour nous toute la zone qui se situe au nord, notamment. Après, il peut y avoir d'autres aspects sur les bords de l'Oise, mais au nord de Verberie. Et dernier point, favoriser la pérennisation d'une économie agricole performante. Voilà.
Je ne vois pas le tourisme que vient.
Oui, alors.
La région et puis le département, c'est un facteur important du tourisme.
Alors là, moi je suis sceptique vis-à-vis de ce que vous venez de dire. Dans les études que j'ai pu lire, moi, sur le tourisme fluvial, les gens étaient quand même assez dubitatifs sur le fait qu'il y ait vraiment un développement de cet aspect-là. Sur Verberie, je pense qu'on n'est pas très très bien situé, parce que notre environnement, notamment au niveau du port, est quand même pas des plus romantiques ou bucoliques. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, alors rien n'empêche, même si on ne l'a pas mis, on parle de toute façon d'inscrire les vallées de l'Oise et de l'Automne comme facteur et vecteur de développement touristique et de loisirs. Donc à la limite, ça peut être dedans, hein, cet aspect-là. Maintenant, le faire ressortir davantage, enfin, est-ce qu'on a les atouts spécifiques pour ce type de tourisme?
Oui, il y a un atout qui est extrêmement important, c'est le fait, parce que les bateaux qui ont arrêté, ils sont directement au centre-ville. Et c'est assez rare, parce que ce soit à Saint-Paul ou que ce soit dans d'autres communes, les hâtes ne sont pas en centre. Les gens ne peuvent pas aller faire des courses à pied. Et c'est pour ça que... Bon,
on avait vu les gens de VNF, ils nous en avaient parlé. Et en fait, sur le tourisme fluvial, le retour sur investissement est nul, quasiment nul. Et le panier moyen dépensé par les gens qui s'arrêtaient il devait être de l'ordre de 30 euros, je crois, à peine.
Hein. C'est
légèrement
c'est
inférieur.
Aussi,
les gens viennent, généralement, ils ont tout ce qu'il faut déjà sur leur bateau.
Mais ça fait aussi l'aménagement du centre de l'entrée de ville.
Alors ça, c'est un autre aspect.
Je dis que ça profite en même temps de deux choses, c'est-à-dire un agrément et un développement technique. D'autant plus que vous pouvez obtenir du FEDER, d'ailleurs on parle lundi soir, oui c'est lundi, obtenir des subventions de l'Europe, du conseil régional pour les installations de ce type. Et ce serait dommage de ne pas en profiter. Moi, je suis tout ce que je dis. Hein. À partir du moment où il y a des financements de l'Europe et de la région, et je trouve que c'est important, plutôt que de faire un arrangement tout simple sur lequel on ne touchera rien, puisqu'on n'aura pas de subvention, de faire un aménagement qui soit plus paysager, qui soit plus intéressant. Donc,
alors ça remet pas en cause un aménagement paysager.
Hein. Ah non, mais l'aménagement paysager, si vous n'avez pas de route fluviale, il n'y aura pas de subvention de l'Europe. Hein. Ouais, mais je tiens à signaler, moi.
Combien il nous restera à trouver, nous, en dehors de la subvention de l'Europe? Et est-ce qu'on a les moyens de le faire? Le problème, il est toujours là. Vous savez très bien que...
Après, il y a l'entretien. Alors, c'est bien beau de toucher de l'argent d'un seul coup, mais après, il faut voir comment ça vieillit et combien ça coûte à l'entretien.
Et combien on va rajouter à...
Si on s'en tient...
Oui, mais si on ne demande pas, on ne peut pas savoir.
Si on s'en tient au projet qui avait été mis en place, que vous aviez mis en place...
Croyez-moi, c'est pas si facile de demander des dossiers pour l'Europe. Hein.
Ah ben bah oui. Ça je viens de faire.
C'est facile, monsieur Fourier.
Mais je dis, moi je dis, c'est tôt, hein. Maintenant, j'attire l'attention sur le sujet, je dis qu'il y a des possibilités de financement, bon, et que ce serait dommage de passer à côté, bon, c'est tout.
Ce sont des financements à quel pourcentage?
Vous pouvez obtenir jusqu'à 80% de subventions.
Difficile.
Puisque vous avez une obligation légale de 20% à la charge de la commune. Bon, enfin, j'estime qu'à partir du moment où on n'avait plus 20%, ça offre quand même.
Tout dépend du coût total.
Non.
Voilà. Enfin, 80%, c'est quand même une vue, me semble-t-il, très optimiste. Et puis,
c'est le maximum, mais vous pouvez aller jusqu'à 80%.
Et puis, aujourd'hui.
Pour que ce soit porté par
la PC.
Pour que ce soit porté par la PC.
Non, mais si on n'a pas le retour sur investissement, je ne vois pas l'intérêt. On n'a pas les moyens de.
Si vous avez pour les moyens à 20%, moi je sais que...
Mais l'entretien, non, mais c'est surtout l'entretien, hein, monsieur Bourg, pour la cantine. Déjà, on n'a pas obtenu 80% de subvention pour la cantine.
Ah non, mais la cantine, ça, la cantine, il n'y a pas de subvention de département, vous en avez obtenu une, bon, par...
C'est à vous de le dire, parce que si vous ne savez pas combien on a obtenu de subventions, c'est un dossier qui était traité.
Ah non, moi, la région.
C'est quand même grave de me dire aujourd'hui, je ne sais pas combien vous avez obtenu, ça fait peur quand même.
Non, moi je sais combien on a obtenu de la région, mais du département, je connais, zéro.
C'est bon. Oui, mais justement, c'est ce que je vous dis, donc c'est ce que ça va...
200 000.
200 000.
200 000. Et maintenant, on me dit 200 000, c'est là où je m'étonne. C'est là où je m'étonne qu'il y a eu 200 000 de subventions versées après. Alors que les travaux étaient déjà commencés et que normalement, pour tenir des subventions du département, il faut que les travaux ne soient pas commencés.
Mais comme vous avez dit, c'est vrai que ça n'a pas été facile. On s'est battu.
Et ben, vous êtes battu, mais enfin, il y a, au niveau de la législation, ça ne me paraît pas rond. Enfin,
c'est que le plan de financement initial, il a été mal monté.
Non.
Ah si, puisqu'il manquait 200 000.
Il manquait
200 000.
On n'a jamais eu les 200 000.
Ah si, il était dans le plan de financement, il était prévu dans le plan de financement initial.
Ah ben j'en suis certain.
Si, si. Donc, il était bien souligné.
On va revenir sur notre sujet.
On va revenir dessus.
Là-dessus. Aujourd'hui, l'Europe, on espère qu'elle va déjà financer le canal Seine-Nord. Donc, voilà, on verra. Hein. Toujours est-il que, pour le tourisme fluvial, nous, on met plutôt la pédale douce sur cette affaire-là. Et on ne la fait pas ressortir dans notre PADD.
De toute façon, en plus, le temps qu'il faudrait pour constituer un dossier de demande à l'Europe, vous dites vous-même que c'est très long. Et maintenant, on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Avec VNF, c'est qu'on n'a plus tellement de temps pour pouvoir remettre le quai en état. Et en dehors d'un arrangement, on n'a pas les finances pour pouvoir faire mieux. Hein.
Bien. On aborde le thème suivant. Pardon ? Thème des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Avoir le souci constant de l'équilibre entre espaces urbains et espaces urbanisés et les grands espaces naturels, agricoles ou forestiers qui caractérisent le territoire intercommunal. Ça, c'est le premier point. Le second point, axer l'avenir urbain de la ville sur des opérations de requalification et de densification raisonnée de terminaison de lisières. Donc voilà, sur ces deux points-là. Dernier point, thème de la gestion des risques et des nuisances. Dernier thème, avoir le souci constant de l'équilibre entre les espaces urbains, les espaces urbanisés, les espaces naturels. Point suivant, prendre en compte les risques de ruissellement pour assurer un équilibre hydraulique à l'échelle du territoire. Troisième point, tenir compte de la nature du sol et de son utilisation passée, extraction de matériaux, carrières, cavités, voire passé industriel lourd. Quatrième point, tenir compte des nuisances sonores, lignes TGV et électromagnétiques, lignes à haute tension, etc. Et dernier point, prendre en compte les périmètres d'éloignement ou de danger dans la planification urbaine. Voilà, sur ces deux thèmes-là, est-ce qu'il y a des questions ou pas ?
J'ai une question moi, sur la suppression de la zone d'activité, puisque vous avez donné un élément de la zone d'activité de la communauté de communes, puisque elle sera bien le long de la RN31 et RN2.
Oui.
Donc pourquoi avoir supprimé cette zone d'activité qui appartient, enfin qui est aujourd'hui une zone interco ?
Nous, on laisse la porte ouverte sur une entrée dans. Le PNR, typiquement là pour le PNR, c'est une zone qui n'est pas constructible. Et ensuite, il y a un corridor écologique qui passe là, qui est reconnu. Donc, on souhaite le laisser ouvert.
Enfin, le corridor, il existait déjà puisqu'il y a 300 mètres de large.
Il était assez restreint.
Attendez, au-dessus de certaines voies, quand on est à Beauvais, c'est 10 mètres. Hein. C'est pas, là, c'est 280 mètres de large. Bon,
Moi, je veux bien que si vous fiez devant les courtes collines du PNR, mais je vois que vous êtes déjà un pied dedans et que vous ferez manger par le PNR. Parce que le PNR, lorsque là, vous aurez mis la main, le bras il cassera. Bon, maintenant, moi, je vous mets... bon, alors là, c'est le diktat du PNR qui ne veut pas... mais c'est une vieille histoire, ça. C'est une vieille histoire où la préfecture avait déjà tranché en son époque, hein, et avait remis la zone en zone industrielle. Bon. Maintenant, vous la remettez en, pour le PNR.
Vous voyez pourquoi l'État il prend des bonnes décisions.
Bien sûr, parce que nous avons, enfin, l'État, je ne sais pas. Oui, le gouvernement.
Ah, si haut.
Qui avait donné l'ordre de. Oui, parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui a donné l'ordre en fait, de changer parce qu'il l'avait rayé.
D'accord. Il y avait un arbitrage gouvernemental. C'est donc qu'on est bien grande, une ville éminemment connue au niveau national.
C'est sûr qu'on est éminemment connue. Mais là, c'est vraiment le diktat du PNR. Voilà comment on
vient. Et dans les 10 ans à venir, je dirais, si on réussit déjà à bien développer les 14 hectares de la main fermée, ce sera une belle réussite.
Une belle réussite.
Si toutes ces zones d'activité faisaient partie de la corbeille de la mariée, de la rentrée dans l'arche. Bon, maintenant, vous supprimez certaines zones d'activité. Je ne sais pas comment tout ça sera pris par là. Parce qu'il y avait des intérêts économiques. Je vois qu'ils ont l'air de disparaître. Bon, maintenant...
La corbeille de la mariée de l'arc, on peut parler, puisqu'on n'est pas intégré dans toutes les discussions qu'il peut y avoir au pays compiègnois ni dans l'arc. Alors.
Ah, mais le pays compiègnois n'a rien à voir avec l'arc.
Ah, si, quand même.
Ah non, il ne faut pas mélanger le pays compiègnois et l'arc. Enfin, l'arc n'a rien à voir avec le pays compiègnois. L'arc fait partie du pays compiègnois.
Oui, ben justement. Voilà.
Justement. Nous sommes représentés d'une apothélique l'autre.
Si, par moi.
Oui, on est. Mais justement, on n'a pas le même point de vue à ce niveau-là.
Ah oui, c'est ça la démocratie.
Ah non, la démocratie voudrait que tout le monde discute et nous, on n'a pas le même point de vue, on pourrait être entendu aussi.
Mais vous êtes entendu.
Oui.
Vous n'avez pas écouté.
Mais on en reparlera.
Vous avez entendu des compagnies du pays confirmées, vous ne nous les rapportez pas.
Vous aurez une réunion bientôt.
Ah oui, depuis les élections, il y a certainement eu des réunions et nous n'avons aucun compte rendu.
Vous pensez que le pays confirmé est une structure plus importante qu'il y a donné? Vous pensez que le pays compiègnois est une structure plus importante?
Pour l'instant, on ne sait pas.
On ne sait pas, puisque Patrick y a
voilà,
tué.
Moi, on n'a perdu pas.
Oui, vous l'invitez, puis on...
Je suis représentant et... On...
Mais on ne demande pas mieux que d'y être.
Ouais. Voilà. Bah, vous pourriez un jour nous l'expliquer, vous qui êtes dedans. Vous pourriez expliquer au conseil ce qui se passe.
Vous
pourriez
peut-être expliquer
aussi
que le maire de
Verdun
organise
une soirée. Il y a une représentation. Parce qu'il y a eu un vote. Il y a eu un vote avec des représentants. Et c'est à la suite de ce vote, les représentants ont été élus. Et qu'à partir du moment où cette élection a eu lieu avec des représentants, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas, j'ai pas été élu au bureau de la municipalité.
Sauf que vous êtes.
Oui.
Bon, on va, n'est pas on, été élu au bureau de la municipalité.
On va passer.
Je ne demande pas à faire partie du bureau de la municipalité comme invité.
Nous allons.
Et je dois vous dire que moi, j'étais assez d'accord. Mais bon,
les derniers. Mais toujours les autres, c'est vrai que les autres sont assez pénibles. Hein.
Non, ce sont les dernières réunions qui ont fait que d'un seul coup tout a basculé. Je vous le dis comme je le sens, hein, maintenant.
On a senti votre appui, monsieur Floris.
Bien, on arrête sur ce sujet-là. On passe, donc le PADD, on a fait un débat sur le PADD, on a abordé un certain nombre de thèmes ensemble, on s'est écoutés les uns les autres, et c'est donc ce qui était demandé dans ce cadre-là. Il n'y a pas de vote, je le rappelle. Donc on passe au deuxième point de l'ordre du jour. Maintenant, je pense que ça va accélérer un peu. Donc, point suivant de l'ordre du jour, groupement de commandes du SE60 pour l'achat du gaz. Alors, en fait, la loi consommation du 17 mars 2014 prévoit la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz naturel le 31 décembre 2014 pour les clients dont le volume annuel de consommation de gaz excède 200 MWh. En fait, ils viennent de prolonger jusqu'au 31 ou 30 juin ou 1er juillet 2015 ces tarifs réglementés. La suppression justement de ces tarifs réglementés implique une mise en concurrence pour les acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics, donc nous. Et dans ce cadre-là, un certain nombre d'organismes ont constitué des groupements de commandes. Alors l'UGAP en a fait un, et le SE60, qui est quand même proche de nous, avec lequel on travaille régulièrement, dans les domaines de l'électricité notamment, a constitué un groupement de gaz, là, pour l'achat de gaz naturel. L'objectif de ce groupement de commandes, évidemment, c'est de payer moins cher, ça va de soi. Et dans les temps qui sont les temps actuels, on est tous en recherche de ces gains. J'ajouterai qu'à partir du 31 décembre 2015, c'est la même chose, mais pour les consommations de gaz qui excèdent 30 MWh. Donc dans ce cadre-là, le SE60 propose en fait un groupement d'achat de gaz coordonné qui prendra effet le temps qu'il lance les marchés, etc., au 1er juillet 2015, pour une durée de 2 ans. Sur ce groupement de gaz, bon, il y a déjà pas mal de personnes qui ont adhéré. À ma connaissance, 59 communes et EPCI ont déjà adhéré, dont la communauté de communes de la Basse-Autonne, mais aussi l'agglomération de Creil, Margny-les-Compiègnes, Nogent-sur-Oise. Enfin, ça représente quand même pas mal d'habitants. Donc, nous avons donc, nous aussi, la volonté de rejoindre ce groupement de commandes du SE60 et de pouvoir bénéficier des contrats qui seront négociés dans ce cadre. Alors, il y a un coût d'adhésion à ce groupement de commandes. Ce coût d'adhésion est de 20 €. Pour quand la consommation annuelle de référence du compteur considéré est inférieure à 40 MWh et de 0,5 fois cette consommation exprimée en MWh lorsque la consommation annuelle de référence est supérieure à 40 MWh. Toujours est-il que pour notre cas et pour les contrats concernés, nous sommes en termes annuels à moins de 500 € par an. Et pour un chiffre facture annuelle sur le gaz qui avoisine les 100 000 € en 2013. Voilà, donc ça vous donne l'échelle des choses, hein. 500 € ramenés à 100 000 €, vous voyez que c'est rien du tout. Et si ça nous permet de gagner quelques pourcents supplémentaires, eh bien, ils seront les bienvenus. Voilà, donc je vous propose dans ce cadre-là d'adhérer à ce groupement de commandes coordonné par le SE60, d'accepter les termes de l'acte constitutif du groupement de commandes qui est annexé à la délibération et d'autoriser le président du SE60 a signé les marchés ou accords cadres et marchés subséquents issus du groupement, et ce, sans distinction de procédure ou de montant lorsque les dépenses sont inscrites au budget. Voilà. Question sur le sujet ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, adopté à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, SAGE, du bassin automne. Donc ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est quand même un document très épais, pas forcément très facile à lire, qu'on a ici. Donc Monsieur Leblanc peut vous le montrer. Ça, c'est qu'une partie, d'ailleurs. Vous avez... voilà. Ça vous montre la totalité. Ce document a été établi par la commission locale, la clé, donc. Hein, la clé de l'automne, commission locale de l'eau, c'est ça ?
C'est cela.
Hein, de l'automne, qui regroupe 50% d'élus, 25% d'usagers et 25% de services de l'État.
Voilà, État, établissement public de l'État.
Ferrou, je te donne, donc Madame Ferrou Djaraoui, je vous donne la parole pour justement nous dire quelques mots à ce sujet.
Alors, écoutez, j'ai fait une petite synthèse de ces gros documents pour essayer de vous donner des choses aussi claires que possible. Là, on est donc dans la. Il y avait un SAGE qui. Le précédent SAGE avait été élaboré en 2003. Il avait donc une durée de 10 ans. Il courait jusqu'en 2013. Et suite à l'intervention. De toute façon, les SAGE ont une durée de 10 ans. Donc, il est arrivé à son terme. Et par ailleurs, il y a eu des modifications réglementaires. Donc, une nouvelle loi. Une loi qui est sortie en 2006. Qui a apporté des obligations nouvelles par rapport aux SAGE. Et donc la commission locale de l'eau devait par conséquent mettre en accord le SAGE avec les nouvelles dispositions réglementaires, d'où le lancement de la révision du SAGE de l'automne, qui a été faite tout au long de l'année 2013, et qui est là pour encore quelques mois. Donc là, il était au stade de la procédure de consultation des collectivités, consultation qui se fait sur une durée de 4 mois. À l'issue de cette consultation, elle sera soumise à l'enquête publique, donc de nouveau une période d'un mois de mise à l'enquête publique. Et ensuite, elle sera de nouveau devant la clé, parce qu'il peut y avoir des modifications suite aux observations des collectivités ou des habitants pendant l'enquête. Et une synthèse de toutes les remarques éventuellement par le commissaire enquêteur pourrait conduire à une réécriture du SAGE et à son approbation cette fois-ci par les deux préfets, celui de l'Aisne et de l'Oise. Son approbation le rendra donc opposable aux tiers, à savoir aux collectivités qui sont concernées par ce SAGE et qui devront l'intégrer à leurs documents d'urbanisme dans une très grande partie, évidemment, des dispositions du SAGE qui concernent la gestion de l'eau, l'assainissement, les rivières, le traitement des pollutions, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Alors, le sigle SAGE, hein, simplement.
Alors, schéma... le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Il faut savoir, pour l'information de tout le monde, que les SAGE ont été créés par une loi, par une directive européenne de 1900... attendez voir, que je retrouve. C'est issu d'une directive européenne qui a été transposée en droit, donc une directive européenne du 23 octobre 2000, transposée donc en droit national le 30 décembre 2006, qui s'impose donc à tous les États membres de l'Union européenne. Et de ce que je sais, c'est que sur ces thématiques-là, notre pays est régulièrement rappelé à l'ordre par l'Union européenne, parce que nous mettons beaucoup de temps à remplir les objectifs d'atteinte du bon état écologique des lots. Voilà. C'est la raison pour laquelle ce SAGE-là a pris en considération, d'une part, le précédent SAGE avait été élaboré avec des objectifs. Ces objectifs n'ont pu être atteints pour différentes raisons que je ne connais pas, puisque, évidemment, je ne l'avais pas en gestion. Il y avait a priori des problèmes d'animation, parce que le SAGE-EBA avait un problème d'effectif pour conduire à bien les actions du SAGE. Et par ailleurs, peut-être une question de moyens, toujours est-il qu'aujourd'hui, la date limite qui était fixée par l'Europe pour l'atteinte du bon état écologique de l'eau, qui était 2015, est reportée à 2021, ce qui explique que le SAGE, donc, qui est en cours de révision, en fait, il rattrape un petit peu tout ce qui n'a pas été fait, et il est extrêmement lourd. Et surtout extrêmement coûteux. Donc, il regroupe à la fois le contrat global pour l'eau, qui concerne évidemment tous les usagers, toutes les activités socio-économiques, qui portent sur le traitement, sur l'assainissement, la gestion de la ressource en eau potable, la protection de la ressource souterraine et le traitement des eaux de surface, qui sont encore dans notre territoire plutôt en piteux état. Il y a ces eaux souterraines souffrent de pollutions diverses et variées. Il y a la présence de métaux lourds aussi qui est relativement constante, donc il y a vraiment beaucoup de travail. Et ce sage, donc, en fonction de tous ces objectifs très ambitieux, il faut le dire, qui sont repris, ça nous porte à des coûts sur la durée du sage, donc qui est de 10 ans. Dans la fourchette basse, c'est 30 millions d'euros, et dans la fourchette haute, 38 millions. Sachant qu'il s'agit là d'estimation. Alors, pour les financements, évidemment, c'est l'agence de l'eau qui intervient dans l'immense majorité des cas, à peu près au plus, à hauteur de 80%. C'est entre 40 et 80% pour l'agence de l'eau. L'entente OISEN, donc lui, intervient, mais de façon à la marge.
Oui, sporadique.
Et vraiment entre 10 et 25%. Et sur uniquement les travaux qui sont de nature à prévenir les risques d'inondation. Et le Conseil général également, très à la marge. Hein. Donc le gros financeur, c'est l'agence de l'eau. Sachant donc qu'il y a, il y a des priorités qui ont été établies dans le cadre de ce SAGE. Et chacun d'apprécier, les élus sont là pour apprécier. Je ne peux pas vous reprendre toutes les dispositions, mais c'est particulièrement axé, peut-être qu'il est particulièrement axé quand même sur la restauration de la rivière L'Automne et ses affluents. Ça fait quand même 287 mètres carrés de couverture pour
ces cours d'eau. Kilomètres carrés.
Kilomètres carrés, pardon, parce que j'ai dit mètres carrés. Ah oui, c'est très peu. Kilomètres carrés. Donc là aussi, la rivière L'Automne puis la Sainte-Marie, sont des rivières qui ont été fortement impactées par des pollutions diverses et variées. Il y a une volonté aussi de renaturation, donc il y a un programme en cours. Ce programme-là avait été prévu par le précédent SAGE, donc ce qu'on appelle le programme pluriannuel de restauration des eaux et qui est en train d'être mis en œuvre et qui, lui, avec ses normes des programmes de restauration et d'entretien des deux rivières, des deux cours, des cours d'eau concernés pour la période. Donc c'est les premiers travaux vont commencer en 2015. Et voilà, donc moi je l'ai analysé à mon niveau, sachant que évidemment je fais partie du SAGE, du SAGEBA, et je ne suis pas membre de la CLÉ. J'ai essayé de vous préparer, je vous ai préparé cette note de synthèse pour vous en expliquer les grandes lignes, évidemment les montants. Sachant qu'effectivement, évidemment, la réalisation des objectifs constitue à la fois des objectifs nationaux, des objectifs communautaires, et que néanmoins, on peut constater qu'effectivement, alors qu'aujourd'hui, l'argent public manque considérablement, que l'avenir à ce niveau-là est plus qu'incertain, et par conséquent, mon point de vue, c'est qu'il est effectivement très ambitieux, que les travaux dans l'immense majorité sont nécessaires et que nous, collectivités, là où nous attendons le plus les aides de l'État, les aides de l'Agence des bassins, c'est sur la ressource en eau, sa protection, bien sûr, sur l'amélioration de sa qualité et de la quantité, et surtout l'amélioration de nos réseaux d'assainissement qui sont sur l'ensemble du territoire vieillissant. Et pour lesquels les diagnostics qui ont été faits en 2013 démontrent qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc voilà, ces thématiques-là font partie du SAGE,
mais entre autres. Mais ça ne rentre pas dans les 38 millions d'euros, non
Non, c'est... Alors,
les 38 millions d'euros,
on est bien d'accord.
Bien sûr, hein, oui, tout à fait. Voilà.
C'est l'automne et...
les affluents,
ce qu'il y a, c'est que... Si tu fais que c'est presque le canal du Nord, hein, c'est pas aussi
alors,
cher.
Alors oui, là-dedans, il y a effectivement...
38 millions d'euros pour l'automne et puis les petits affluents, qui font qu'au maximum, on aura 80%, mais peut-être 40%.
Ah oui, tout à
donc
fait.
Donc la facture, qui la paiera,
oui,
nous.
Il y aura.
Et particulièrement la communauté de communes, puisque à partir de 2016, c'est la communauté de communes qui aura la compétence des sages.
Moi, je l'ai parcouru également. Je trouve que c'est faramineux les montants qui sont abordés là. Ce qui est mis là, ce sera plus versé pour l'assainissement. Parce que vu les montants là, faut pas s'attendre à ce que l'assainissement, ça va faire vase communicant, et je trouve ça complètement aberrant.
Enfin, alors que l'économie s'effondre.
Alors, le fond des choses est acceptable, puisqu'il faut effectivement que ce soit fait, que c'est, ça part d'une bonne cause, à mon avis, mais avec des moyens qui sont démesurés. Hein.
Alors, on vous propose l'avis suivant, juste en complément, parce qu'on voit très bien que l'agence de l'eau, de toute façon, bascule une partie de ses financements, au lieu de les mettre sur l'assainissement, elle les met sur ces projets-là. Et donc, on a moins d'argent pour l'assainissement. Enfin, c'est bien d'être dit.
Je fais une remarque, c'est que la zone industrielle intercommunale n'est pas impactée par
la zone humide.
Par les zones humides. Et c'est la seule qui n'est pas impactée par la zone humide. Elle est très peu impactée, alors que la zone industrielle de Verberie est totalement impactée par les zones humides.
Mais vous êtes tout à fait en face pour dire que ce n'est pas une zone humide.
Moi, je défendrai évidemment. Moi, je défendrai surtout la mienne. Chacun
défend son.
Voilà.
Étant donné que vous avez mis un trait de crayon sur la nôtre, je ne vois pas pourquoi j'irai défendre les autres. Faut quand même.
Mais elle s'emplace en tout sur vers nous. On défend vers nous, les amis.
Mais quand même, il faut faire remarquer une chose, c'est que tu l'as défendu auparavant.
Je l'ai défendu auparavant, voilà. Mais je m'arrêterai
vite. Voilà.
De la défendre.
Ah oui, mais
ça ne défendait pas ma fille. Alors, faut quand même, mais bon, regardez.
C'est CBA ou pas, vous défendez toujours Verberie. C'est toujours Verberie.
Ah,
c'est
non, mais là, Verberie. Je défendrai.
C'est toujours Verberie.
Je vous propose de revenir au sujet qui est.
C'est pour ça que je voulais aller tard.
qui est le sage de la Basse-Automne. Donc, l'avis qu'on vous propose est le suivant. Le conseil municipal de la commune de Verberie exprime ses réserves concernant le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux sages du bassin versant de l'Automne qui lui est soumis. Sans remettre en cause le bien fondé des objectifs fixés, il estime qu'ils sont beaucoup trop ambitieux, entre 30 et 38 millions d'euros, au regard du calendrier fixé 2015 à 2022 et des ressources prévisibles à l'horizon considéré. Il souhaite donc que le SAGE soit amendé dans un esprit d'économie afin que les objectifs et les ressources disponibles et nécessaires à leurs atteintes soient mises en cohérence. Il demande notamment qu'une moindre priorité soit affectée au traitement des zones humides et autres travaux sur les abords de cours d'eau, la réorientation des priorités et des financements vers la ressource en eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales qui pèsent lourdement sur les budgets des collectivités, en ces temps d'argent public rare et de fort endettement public. Voilà, on propose comme avis.
Oui, mais on ne parlait pas des zones.
Comment ?
On ne parlait pas des zones impactées.
Ah ben là, c'est...
Non, là, c'est sur le SAGE.
C'est sur le SAGE,
là, les zones humides ne sont pas...
C'est l'avis sur le SAGE.
C'est le document global de SAGE sur lequel il faut fournir l'avis.
Le document global.
Voilà.
Sur le document global.
On n'est pas sur les objectifs qui sont prévus... ou les zones humides, là, c'est totalement déconnecté.
Moi, je rajoute pas quand même.
Enfin, on parle bien des zones humides. Hein. Mais après, la cartographie des zones humides, c'est pas dans ce cadre-là qu'elle va être abordée. Hein.
Oui, non, mais ce sera jamais abordé.
Bah, si, puisque il va y avoir une étude. Il va y avoir une étude.
Non, on a demandé une étude avec le SAGE. On attend l'étude.
Et ensuite, on proposera, on en a parlé cet après-midi, au président du SAGEBA de procéder de la même façon que cela a été fait au syndicat d'Annonette, à savoir appeler les communes à se prononcer sur les périmètres disposant des atlas et que voilà, ces éléments permettent au préfet, aux deux préfets... Voilà. Donc là, c'est vraiment pas le sujet. Sur le SAGE, le SAGE, il va bien au-delà des zones humides. Hein, c'est pour ça qu'on ne se prononce pas là-dessus.
Enfin, c'est quand même le plus important.
Pour la commune. De toute façon, on demande bien qu'une moindre priorité soit affectée aux zones humides.
On demande.
C'est oui, dedans, mon avis.
Bien, sur l'avis que j'ai lu, qui est contre ? Qui s'abstient ?
Moi, je m'abstiens parce que comme je suis au bureau du SAGEBA, je ne souhaite pas participer au vote. pour éviter tout conflit d'intérêts.
Bon. Très bien. Donc, il est adopté, cet avis, 15 voix, enfin plus de 15 voix d'ailleurs, parce qu'il y a les 17 voix, que je ne dise pas de bêtises, 18 voix pour et une voix d'abstention. J'y suis arrivé.
Ah, faut faire attention.
Service annexe eau potable, transfert de l'actif. Alors là, je reviens sur un sujet qui avait été débattu le 14 juin 2013, où le service annexe eau potable de la commune a été clôturé. Donc, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites par le comptable de l'époque à Pont-Sainte-Maxence. Aujourd'hui, Madame de Le Salle, qui vient d'arriver, sollicite une délibération l'autorisant à transférer les valeurs comptables inscrites à l'actif du service eau, parce que c'est ce qui a été fait à l'époque, dans l'actif de la commune. Voilà, cette opération n'ayant pas été réalisée par la trésorerie à l'époque. Bon, il s'agit de toute façon uniquement d'une affaire comptable. Il n'y a pas d'argent, il n'y a que des écritures. On ne sera pas plus riche après, ni moins riche. Ça sera pareil. Alors, pour vous expliquer et un petit peu plus, le 14 juin 2013, donc le budget était clôturé. Il y a eu un mouvement comptable de 99 000 euros et quelques centimes qui ont été transférés du budget général sur le budget annexe service eau à l'époque parce qu'il était déficitaire de 99 000. Il s'agissait de revenir à zéro. Toujours est-il que ces 99 000 euros constituaient donc maintenant un actif de ce budget annexe et qu'aujourd'hui il faut transférer cet actif vers l'actif de la commune. Voilà, c'est une affaire de comptable hein, derrière.
C'est plus une affaire de comptable puisque la commune n'avait pas la compétence eau.
Ah oui, non mais ça,
bon, ça en revient sur un lotissement, sur lequel d'autorité, la comptable avait créé un budget annexe pour l'assainissement. Or,
pour l'eau potable, non?
Pour l'eau et l'assainissement.
Pour l'assainissement.
Bon, pour l'assainissement de ce lotissement. Or, nous n'avions pas la compétence pour l'assainissement. Donc au départ, c'est le syndicat qui a payé. Après, il n'avait pas compris. Moi, j'avais dit au départ, vous ne pouvez pas faire payer l'eau et l'assainissement pour un lotissement qui est un lotissement de la commune. Bon, puisque ce sont des investissements. Non, non, ils ont fait budget annexe. Et ils ont demandé à ce que ce soit un budget. Donc, après, c'est resté en déficit pendant des années. Donc, on ne pouvait pas combler, puisque de toute façon, nous n'avions pas la compétence eau. Donc, il a fallu quand même sortir. Et puis, les derniers, bon, évidemment, les trésoriers changent. Et il fallait bien trouver la solution, puisqu'il y avait une erreur de fait. Donc, ils l'ont préparé en disant.
Voilà. Alors, moi, j'étais vraiment sur la dernière partie. Il y a eu toute une affaire qui n'est pas comptable, je suis bien d'accord avec vous. Là, c'est la toute dernière partie qu'on traite aujourd'hui. Là, c'est vraiment une affaire purement comptable.
C'est la liquidation du dossier.
Donc, voilà.
Supprimer le budget annexe de.
Voilà. C'est la dernière, la touche finale à cette affaire. Donc, je vous propose d'autoriser Madame le receveur municipal à transférer les valeurs comptables figurant à l'actif du service annexe eau potable dans l'actif de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté à l'unanimité. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Point suivant de l'ordre du jour. Service de restauration scolaire, projet d'accueil individualisé, PAI tarif. Donc, de temps en temps, ce sont des cas relativement rares, des enfants font l'objet d'un PAI, PAI projet d'accueil individualisé, pour les enfants qui souffrent de certaines pathologies ou qui ne peuvent pas manger certains aliments. Ils font l'objet donc de ce projet d'accueil particulier et aujourd'hui, lorsqu'ils vont manger à la cantine parce que les parents sont absents, travaillent, ils arrivent en fait avec le repas du papa et de la maman. Enfin, le repas de familial qu'ils font réchauffer. Donc il reste à savoir comment on fait payer ces familles-là, puisque l'enfant ne prend pas le repas de la cantine. Bon, c'est déjà un sujet qui avait été abordé par la municipalité précédente, hein, pour un enfant, mais c'était une délibération en fait nominative. Donc là, c'est un autre enfant, donc on va reprendre une délibération nominative pour cet enfant. Toujours est-il que, alors, aujourd'hui, le repas de la commune revient sur un calcul bilan de l'année scolaire 2013-2014, revient tout compris à 10,08 €. Sur ces 10,08 €, aujourd'hui, à 1% près, on fait payer 50% de cette somme à la famille et la commune paie les 50 autres %. D'accord ? On paie 5 € chacun, quelques centimes près. Donc on en paie la moitié. Finalement, moi, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Finalement, l'enfant bénéficie de toutes les prestations de la cantine, à l'exception, évidemment, du repas. Le repas, lui-même, coûte 4,23 €. Le reste des prestations, c'est le transport par bus, et ce sont le personnel d'encadrement qui est présent, ainsi que la redevance incitative d'ordures ménagères que l'on règle au collège. Donc, je vous propose de faire tout simplement, de prendre la somme globale qui est de 10,08 €, de la diminuer des 4,23 € qui constituent le repas, on arrive à 5,85 €, et comme la commune finance à 50%, on coupe en deux, et on arrive à quelques centimes près, à 2,90 €. Voilà. Ouais, là, ça me semble relativement mathématique, hein. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, 2,90 € pour le repas. Point suivant. Désignation d'un représentant au conseil d'administration du collège d'Aramont. Alors, il y avait un représentant de la commune, tout simplement parce que nous sommes commune siège, l'endroit où se trouve le collège. Donc, un représentant de la commune au conseil d'administration. Bon, il y a un nouveau décret, donc il faut de nouveau redésigner un représentant de la commune. Voilà. Donc, j'étais le représentant, donc je propose de continuer, et j'ai donc me proposé en tant que représentant de la commune au conseil d'administration du collège. Y a-t-il d'autres candidats ? Bon, je pense que vous m'autorisez, enfin, je vous demande l'autorisation de procéder à main levée. Qui est contre ? Bon. Qui s'abstient ? Ok, je serai de nouveau le représentant de la commune auprès du collège d'Aramont. Point suivant. Donc, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de la CCBA. Donc, ce rapport nous a été communiqué il y a quelque temps. Il est disponible et vous l'avez reçu pour le lire. Voilà, il établit notamment un certain nombre de conclusions sur lesquelles, je le dis, la majorité municipale n'était pas d'accord. Donc nous avons voté contre ce projet de rapport annuel qui a été adopté à la majorité par le conseil communautaire. Voilà ce que je peux en dire. Dans les points, moi qui me semble important, je trouve que en termes de performance, le rapport fait trop référence au nombre de kilos, et il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte et d'autres indicateurs qui devraient être présents, comme le coût du système par habitant et son évolution, ou encore l'impact sur la salubrité publique. Bon, je pense notamment aux décharges sauvages que l'on peut voir quand même un peu partout, malheureusement. et à la quantification de ces décharges sauvages. Voilà, mais tout le monde peut le lire, il sera aussi consultable pour tout un chacun des habitants au niveau de la mairie, il n'y a pas de problème, si vous voulez le lire. Et d'ailleurs, il est peut-être en ligne, ou il sera peut-être en ligne, sur le site de la communauté de communes. Bien, pas de questions sur ce point-là ?
Non, nous ne referons pas le débat.
Non, on ne va pas refaire le débat, je suis d'accord. On l'a eu. Point suivant de l'ordre du jour, projet de contrat du contrat territorial d'objectif Pays Compiénois, région. Alors, on revient sur le sujet qu'on a commencé à débattre tout à l'heure. C'est vrai que, pour ma part, je regrette de ne pas être présent au Pays Compiénois. J'avais demandé au moins le statut d'invité, mais bon, visiblement, pour l'instant, il ne m'a pas été accordé. Alors, quel est le rôle du Pays Compiénois ? Le rôle du Pays Compiénois, c'est notamment je crois que doit être le seul maire qui ne soit pas présent du Pays Compiénois. Donc tous les maires, notamment, qui se réunissent, les présidents également de communautés de communes ou de communautés d'agglomération, et qui ont un certain nombre de débats. Mais au-delà de ça, dans ce projet-là, c'est un autre rôle du Pays Compiénois qui est mis en valeur, c'est le fait que c'est notre point intermédiaire pour accéder aux subventions de la région. D'accord ? Et donc là, on a en fait un contrat territorial d'objectif établi entre le Pays Compiénois et la région Picardie, sur lequel la région va se baser pour attribuer ses subventions aux projets des communes qui font partie du Pays Compiénois. Alors, vous l'avez reçu également, j'ai quand même en évoqué certains points. Alors, on nous dit que on a pu identifier en fait quatre orientations sur le Pays Compiénois, ça c'est la région qui parle. Orientation numéro 1, faire du Pays Compiénois un moteur de la technopole Picarde et une vitrine de la métropole en réseau Picarde. Ça, c'est le premier point, première orientation. Orientation numéro 2, intégrer le Pays Compiénois dans la dynamique touristique régionale. Donc là, c'est un point qui nous intéresse de près. Orientation numéro 3, faire du Pays Compiénois un territoire d'équilibre, attractif et durable. Voilà, on y dit notamment, une partie des activités de ce territoire étant située en zone inondable, le pays doit conforter ses actions dans un objectif de résilience et de conciliation des usages. Donc on se soucie bien des problèmes d'inondation. L'orientation numéro 4, conforter la gouvernance à l'échelle du Pays Compiénois pour un nécessaire équilibre ville-campagne et favoriser une gouvernance entre les territoires au service des projets d'intérêt régional. Voilà ce que je peux dire pour les quatre orientations choisies. Derrière ce contrat qui vaut donc jusqu'en 2020, lequel on nous lira en 2020, il y a une synthèse du diagnostic et un tableau des orientations et objectifs. Et on y voit également un certain nombre de points intéressants. Il y a notamment l'étude des atouts, faiblesses, opportunités et menaces sur le territoire qui sont intéressants et qui nous touchent. Directement. Dans les atouts, on voit que dans ce pays, on dispose de plus d'emplois que d'actifs. Donc ça, c'est un point qui est éminemment intéressant. Dans les faiblesses, une offre de services et de transports inégale sur l'ensemble du pays, des territoires enclavés, dont la communauté de communes d'Attichy et la communauté de communes de la Basse-Automne. Voilà. Et des commerces de proximité en difficulté. Sur les opportunités, la proximité de l'Île-de-France, facteur d'attractivité, mais aussi facteur de pression foncière. Après, là, c'est pas marqué. Facteur de pression foncière.
C'est dans les menaces.
C'est peut-être marqué dans les menaces. Oui. La proximité de Roissy, via le futur TGV Picardie-Roissy. Nous, la proximité de Roissy, que ce soit le futur TGV ou pas, c'est pour nous, c'est une opportunité. On est bien touché par, par l'extension de Roissy et la croissance de Roissy. Hein. On a quand même pas mal d'habitants qui vont travailler dans cette zone. Autre opportunité, un potentiel touristique à développer. Donc ça, c'est bien pour nous. Une conciliation des usages à trouver entre préservation des espaces agricoles et naturels et développement du territoire.
C'est là qu'on peut replacer aussi les zones humides.
Oui.
Espaces naturels.
Dans les menaces des centres de décision et des pôles d'emploi externes au pays, des zones d'extension des entreprises situées dans des zones rouges, et là on reparle des inondations. Okay. Voilà, et la pression francilienne qui provoque un coût du foncier élevé au cœur du pays. Alors après, quand on fixe les objectifs opérationnels, j'en lis simplement quelques-uns qui sont en relation avec notre commune, de mon point de vue. On nous dit favoriser la création d'un pôle de tourisme d'affaires dans le cadre de la métropole en réseau. Bon, je ne sais pas s'il sera du tourisme d'affaires, mais le tourisme, ça nous concerne. Favoriser l'implantation d'entreprises respectueuses de leur environnement dans les espaces de vallée ou à proximité des gares de fret. Sensibiliser les entreprises au report du fret routier vers le fret ferroviaire ou fluvial. Autre point, valoriser la trame verte et bleue. Concilier préservation des trois vallées avec le développement du tourisme. Valoriser le patrimoine bâti identitaire du pays. On est concerné. Configurer une offre touristique cohérente sur le territoire pour les différents usagers. Accompagner l'évolution et la réhabilitation du parc hôtelier. Alors nous, on a quand même une zone où on voudrait faire de l'hébergement. Rendre accessibles les sites d'intérêt touristique. Autre point, limiter l'artificialisation dans les zones rurales et périurbaines. Organiser un développement équilibré du territoire, assurer son accès aux services, culture, sport, formation et aux soins pour l'ensemble des habitants du territoire. Préservation des commerces de proximité. Concilier les usages entre développement urbain, économique et préservation des espèces sur la vallée de l'Oise. Mettre en place des moyens de mobilité durable afin de désenclaver la communauté de communes d'Attichy et la communauté de communes de la Basse-Automne. Voilà, des points qui nous concernent directement. Voilà, et dernier point, favoriser les collaborations avec le parc naturel régional Oise Pays de France. Voilà ce qui est marqué dans ce projet que vous avez tous reçu, donc vous en avez, je l'ai porté, il a été porté donc à votre connaissance. Voilà, moi j'ai le regret effectivement de ne pas avoir participé à sa rédaction quelque part. Rapport d'activité 2013 de l'ADTO. Alors l'ADTO est une émergence du Conseil Général. C'est un centre d'ingénierie qui travaille en amont des projets et qui également fait une prestation de suivi sur certains projets. Il a traité en 2013 654 dossiers et il en a suivi 254. Bon, nous, on est actionnaire, donc on est actionnaire de cet organisme qui agit dans différents domaines, dont le bâtiment, tout ce qui est assainissement et alimentation en eau, et aussi, par exemple, tout ce qui est voirie et VRD. D'ailleurs, dans ces domaines-là, pas forcément en 2013, mais on a fait appel à ces services, notamment au moins pour la cantine, sur laquelle ils ont travaillé en amont du projet, mais ils n'assurent pas le suivi aujourd'hui. Sur eau, assainissement, le CIVOM Verberie Saint-Va-de-Lomont travaille régulièrement avec eux, ils sont en assistance maîtrise d'ouvrage.
Voilà.
Et pour le VRD, on a au moins cette année, on avait demandé un rechiffrage de la rue de la Sambrière. Donc c'est un organisme qu'on connaît bien, avec lequel on travaille. Bon, pour information, sa directrice vient de partir et ils doivent être en train de se rapprocher d'une autre structure du Conseil général qui s'appelle le service d'aménagement de l'Oise, c'est ça ?
La société
d'aménagement de l'Oise. Faisait des métiers quand même un peu voisins, ces gens-là. Bon. Le rapport d'activité complet est évidemment à votre disposition. Il n'est pas très épais, hein, vous pouvez le consulter. Voilà. Oui. Dernier point de... presque dernier point de l'ordre du jour. Donc, GRDF, c'est pareil, compte rendu de l'activité de la concession 2013. Vous avez eu normalement de juin une feuille A4 qui résume. Il y a un rapport qui est plus complet et qui sera consultable pour tous, hein, y compris pour, bien sûr pour les habitants, au niveau de la mairie. La page qui est résumée, elle nous donne un certain nombre de chiffres. Elle nous apprend qu'il y a 810 foyers sur Verberie qui sont aujourd'hui clients de GRDF. Alors GRDF, je précise pour tout le monde, hein, c'est pas le fournisseur du gaz en tant que tel, parce que le fournisseur du gaz, vous en avez un tas sur le marché, mais c'est lui qui est concessionnaire du réseau. Donc là, il n'y en a qu'un, pour le coup. Si vous avez du gaz, c'est forcément GRDF qui assure
le transport.
Donc là, 810 foyers qui sont... reliés sur Verberie, c'est à peu près 1850, donc ça vous donne un peu moins de 50%. On vous donne la quantité totale consommée en mégawattheure, donc 32 870 mégawattheure, et les recettes d'acheminement pour GRDF, donc une partie de la facture que tout le monde paie, 303 435 euros. Voilà. Sur les autres points, autre point intéressant... la qualité de la distribution, donc le nombre d'appels à l'urgence sécurité gaz, il y en avait eu 20 en 2012, il y en a eu 12 en 2013. Bon, je ne sais pas si c'est significatif, hein, cette différence, mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de détérioration et que ça fonctionne bien. Voilà pour ce point. Le rapport est évidemment consultable, comme je l'ai dit, par tous. Mon autre point, compte rendu des organismes extérieurs, je ne pense pas qu'il y en ait. Dernier point à titre d'information, communication communale des impôts directs. Donc nous avons eu le retour des services fiscaux. On avait proposé un certain nombre de noms. Et donc non, là, nous avons les personnes qui sont désignées par les services fiscaux. Donc les commissaires titulaires sont Madame Fauquemberg-Élise, Madame Lafitte-Lucie, Monsieur Jean-Marie Renaud, Monsieur Michel Cuvelier, Monsieur Bernard Duteil, Monsieur Philippe Boursier, Monsieur Bernard Crinon, Monsieur Jean-Jacques Lecâtre. Voilà. Et les commissaires suppléants, M. Bernard Flandre, M. Charlie Hay, Mme Isabelle Kozik, Mme Nathalie Bourson, Mme Eliane Jarraud, M. Laurent Fontaine, M. Éric Coe et M. Didier Thieu. Pardon. Voilà, titre d'information.
Tous ces gens-là doivent faire partie de la commune de Verberie, normalement ?
Non. Il y a deux personnes justement, et c'est alors j'ai plus toutes les catégories là, mais les personnes, il y a des personnes qui en fait sont désignées parce qu'elles contribuent à la taxe d'habitation, des personnes qui sont désignées parce qu'elles contribuent à la taxe foncière bâtie, des personnes qui sont désignées parce que une personne parce qu'elle est dans le domaine forestier, et puis il doit aussi y avoir une personne dans les titulaires et dans le suppléant, qui justement n'habitent pas Verberie en tant que résident, et qui bien sûr paient des impôts sur Verberie. C'est en termes de commissaire titulaire, c'est Jean-Jacques Lecâtre, et en termes de suppléant... Pardon ? La liste, c'est nous qui la proposons. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, on propose à peu près le, je ne sais plus, c'est le double, je crois. Hein. On propose le double de noms et les services fiscaux choisissent sur un certain nombre de critères qui leur sont propres. Comment ?
On leur demande, nos gens,
s'ils
sont d'accord. C'est
pas forcément. Voilà. Pas forcément. Non. Mais c'est comme les jurés. Hein. Les jurés, on ne demande pas si vous êtes volontaire. Hein. Dernier point d'information. Donc, ce week-end s'est déroulé le Téléthon. Bon, il y avait d'autres activités également hein, qui se sont déroulées, mais je reviens sur le Téléthon parce qu'il y avait quand même 18 ou 19 associations qui étaient 18 qui s'étaient donné la main sur cette affaire. C'était une première. Ça s'est déroulé vraiment dans une excellente ambiance. C'est très, enfin, voilà, ça fait plaisir. On a récolté pour le Téléthon, hein, bien sûr.
6,75 €.
Voilà.
1286,75.
Donc, voilà. Merci à tous ceux qui ont...
Merci aux associations.
Merci aux associations, parce que ça montre ouais. qu'elles sont impliquées dans la vie de la commune. C'est 18 associations. Merci beaucoup à elles. Merci, évidemment, à tous ceux qui sont venus et qui ont donné quelque chose au profit du Téléthon. Ce point... clôture le conseil municipal. Est-ce que...